C'est le moment de l'émission Pierre Perret où, dans mon infinie mansuétude, je laisse le micro à cette niçoise, à la faconde légendaire qui adore parler. Andy Warhol disait qu'un jour chacun aurait son quart d'heure de célébrité. Il voyait un peu trop large à mon sens. Eva, je vous donne 4 minutes, ça sera suffisant.
Moi, généralement, c'est 3, mais c'est pas grave. Quelques petites questions, Pierre, parce que je sais que vous aimez tellement les mots que je voulais en profiter. Je voulais plonger avec vous dans un dictionnaire. Votre mot préféré en ce moment, ce serait quoi ?
Les nuages.
Nuages, pourquoi ?
Parce que il y a qu'eux qui sont libres. Maintenant, c'est les derniers libres sur cette planète.
Votre mot d'amour préféré ?
C'est vous.
Elle va fondre.
Mais arrêtez, mais ne cassez pas ce moment magique là, Mathieu Noël.
Excusez-moi, c'est mon métier de casser
votre
le moment magique.
Votre insulte préférée à l'égard de Mathieu Noël.
Oh non, je t'adore, toi.
Oui, une petite insulte.
Non, vous aimez bien les insultes. L'insulte que vous aimez dire.
Bah écoutez, si j'avais su, je vous aurais ramené le bouquin que j'ai sorti il y a 20 ans.
Oui.
Ça s'appelle « Jurons, gros mots et autres noms d'oiseaux ». Il y en avait 2000 dedans. Alors,
Est-ce qu'il y a un mot lié à la cuisine, à l'univers de la cuisine que vous aimez particulièrement ?
Que je prononce assez souvent, c'est la tortore.
C'est quoi la tortore ?
La tortore, c'est
la bouffe ?
Oui, exactement.
Mais ça, c'est un néologisme ou c'est un mot qui existe, que vous avez repris ou c'est un mot que vous avez inventé ?
Alors, j'en sais plus rien.
Ah, c'est bon,
parce
ça
que souvent, quand je cherche un mot et que je ne le trouve pas, mais c'est vrai que j'en ai à mon actif quelques-uns. Oui. Non, celui-là, c'est un vieux mot. Je crois que même mon copain Boudard en parlait de ça. Et le breton, Auguste, il en servait souvent.
Moi, j'aime bien tambouille.
Tambouille, c'est joli, tambouille.
Ça sonne bien
ici, ouais.
Aussi.
Tambouille, ça fait caserne.
Oui, ouais. Et ça fait. C'est paraffiné, quoi.
Oui, c'est pas raffiné, oui, ça c'est clair. Et le premier mot que vous avez prononcé quand vous êtes arrivé sur cette terre, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Merde alors.
Et celui que vous aimeriez prononcer en dernier ?
Merde alors.
On en parlait hors micro, il y a une chose qui vous émeut beaucoup, c'est quand des écoles ou des bibliothèques portent votre nom.
Ah oui, ça oui.
On en
c'est
est
votre
à combien
légion d'honneur, quoi, c'est ça ? C'est un peu...
Ah oui, enfin, oui, ça... Ils m'ont fait filer la Légion d'honneur il y a des années, mais ça me fait plus plaisir que n'importe quoi d'autre, ce genre de choses. Des écoles, il y a des rues. La première école que j'ai eue à Valence d'Agen, c'est Jean-Michel Baillet, qui était à l'époque ministre ou député, je ne sais pas, il a été tout tellement. Alors il m'a dit, voilà, j'ai décidé de donner le nom à l'école, et ça s'appellera Pierre Perret. J'étais vachement content. Ça, mais j'étais ému comme tout. Puis je suis allé faire l'inauguration. Mais quelques mois après, je chantais dans le coin et je suis repassé pour embrasser les enfants parce que c'est une école maternelle et tous ces enfants étaient pendus en grappe à mon cou et tout ça. Pierre Perret, je t'aime. Bon, c'était magnifique. Et Jean-Michel me dit, ben, j'ai quelque chose à te montrer. Viens, on a fait des modifications autour de l'école, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer ? Alors, on est parti faire le tour de l'école, tu vois, et au coin de l'école, au début de la rue, il me dit, tiens, tu veux pas tirer ce torchon-là ? Ce torchon, c'était le drapeau français avec lequel il avait caché une plaque au coin de la rue, et il y avait rue Pierre Perret,
carrément,
poète, ouais. Auteur-compositeur. Voilà.
C'est génial.
Axel de Tarlay en rêve, une rue de Tarlay.
Oui, mais vous savez qu'il n'y a que trois types de personnes qui passent à la postérité, les artistes, les politiques et les scientifiques.
Et jamais les économistes.
Et jamais les économistes,
peut-être
ni les journalistes talentueux.
Peut-être parce qu'ils se trompent tout le temps, les économistes, on verra. Bonne humeur et gai savoir, vous écoutez l'Équipée Sauvage, 2 heures durant lesquelles le rire n'est jamais moqueur, toujours convivial car notre émission est profondément consensuelle, comme j'ai tenu à le rappeler hier, suite à un léger dérapage de ma part, sur l'intérêt du label Village Fleuri.
Voilà, vous avez tous vu ces petits panneaux avec des fleurs, 1, 2, 3, 4.
Souvent, c'est les villes où il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils mettent un petit truc Village Fleuri.
Ah non !
Bah si !
C'est un label, c'est sérieux !
Je viens me faire signe en régie qu'il y a 80 000 villages labellisés, que je suis en train de perdre tous les auditeurs de ces villages. Non, c'est formidable, j'aime la France, j'aime les villages et j'aime les villages fleuris. Bien sûr ! Et mes chers compatriotes, quand on aime la France et qu'on aime ces merveilleux villages fleuris, on aime aussi Pierre Perret.
Elle dit ceux de la consulte, on ne peut plus les soigner. Nos médecins les auscultent assis
en
dans les
escaliers. Il y a 14 ans déjà, La petite infirmière, une chanson qui résonne encore différemment aujourd'hui à nos oreilles. C'est vraiment une profession qui mériterait de voir en tout cas son, les salaires revalorisés, parce que c'est bien beau de les applaudir, mais à un moment, il y a besoin concrètement
c'est un problème
d'un soutien
éternel.
Financier.
Ça, tous les gouvernements qui se sont succédés à ce propos ont été une bande de faux culs, parce qu'ils leur ont fait des promesses et ils n'ont jamais rien tenu. Il y a sûrement un problème à résoudre là. Est-ce qu'ils vont le résoudre un jour? Il n'y a rien de moins sûr.
Oui, vous n'avez pas l'air très optimiste. Vous dites dans Aphorism and Blues, le livre que vous publiez, la politique est l'art de mentir d'un air sincère à des gens qui font semblant de vous croire.
Exactement.
C'est assez vrai, mais c'est un peu désespérant parce que sans la politique, il n'y a pas de démocratie. Il faut quand même croire un minimum en la politique.
Il faut poser cette question aux politiques, mon cher.
On les invitera. Oui. Face à vous, Pierre, une journaliste engagée qui est prête, s'il le faut, à porter un jour la plume dans la plaie. Il faut juste lui laisser le temps de trouver la biceptine. Eva Rock, êtes-vous prête à défier Pierre Perret intellectuellement?
Oh, surtout pas. Alors là, non.
Eh bien pourtant, c'est quand même l'heure du quiz.
Voilà.
Pierre, pour le questionnaire du jour, nous allons faire un hommage à votre prose fleurie. Voici un quiz sur l'argot. C'est pas...
Oh, ah mais non, je suis nulle en argot.
Vous allez tellement perdre. Vous allez vous faire étrier. Eva Rock, si je vous dis pisser sa côtelette, c'est avoir mal suite à un choc ou accoucher?
Ah,
pisser sa côtelette.
Ah non, l'accouchement, c'est marrant.
Non, je vous demande pas si c'est marrant, je vous demande d'essayer de réfléchir et trouver la bonne réponse.
L'accouchement.
Accoucher.
Bravo.
Oui.
C'est une bonne réponse.
Ah,
effectivement, on peut dire aussi déballonner, débouler ou donner la vie, mais c'est beaucoup moins drôle. Pierre Perret, soutirer du caramel, c'est prendre de l'argent ou obtenir des aveux?
Ah, je pense que c'est peut-être prendre du blé.
Soutirer de l'argent, c'est une bonne réponse.
Ah, oui.
Avec douceur, de la manipulation, mais récupérer le flouze quand même. Et Baroque, si je vous dis faire sa mouquette,
faire
les yeux doux,
oui,
ou montrer son derrière?
Faire sa mouquette. On va faire les yeux doux.
Faire les yeux doux,
ouais.
Bah ça c'est parce que vous êtes romantique, mais en fait c'est montrer son derrière.
Oh
mais, même si c'est vrai, je vous le concède, il est techniquement possible de montrer son derrière tout en faisant les yeux doux. Il suffit de se retourner discrètement au moment fatidique. Pierre Perret.
Ou alors tu fais un œil doux, juste dessus, celui de derrière.
Pierre Perret, si je vous dis, j'espère que vous n'avez pas découvert Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Ça veut dire payer ses dettes en empruntant ou ça veut dire c'est du pareil au même?
Non, c'est la première...
Payer ses dettes en empruntant, effectivement, c'est une bonne réponse.
Oui. Eva, vous ne savez pas cette expression, non?
Ah, moi, je l'avais entendu.
Ouais.
Eva Rock, vous êtes trop jeune peut-être.
Oui.
Eva Rock, j'espère que vous n'avez pas le bouchon ficelé. Ça veut dire, j'espère que vous n'êtes pas de mauvaise humeur ou j'espère que vous n'êtes pas constipé.
Oh non, non. Non, mauvaise humeur.
Mauvaise humeur.
Ah bah
et
oui.
Non.
Mais non, c'est vrai.
C'est être constipé, avoir le bouchon ficelé.
Je trouve ça trop évident. En fait.
Si c'est vrai, je vous le concède encore une fois, qu'on peut être techniquement constipé et de mauvaise humeur simultanément.
Ou de bonne humeur en étant constipé.
C'est vrai, mais ça vous arrive moins souvent.
Oui.
Ou avoir le tire-bouchon bloqué.
Voilà.
Avoir le tire-bouchon bloqué. Magie de la langue française. Enfin, Pierre Perret, attention, si je vous dis qu'Eva a les oranges sur l'étagère, c'est qu'elle a de gros regrets ou qu'elle a un décolleté trop provoquant? Les oranges sur l'étagère.
C'est la deuxième.
Bah oui, c'est le décolleté, les oranges, non?
Mais oui, Eva, mais c'est une bonne réponse de Pierre Perret.
Et non pas de Pierre.
C'est d'avoir un sacré décolleté, c'est l'ancêtre d'avoir du monde au balcon.
Et
une
oui.
poitrine généreuse, on dit aussi la tétonnière. Une poitrine flasque, on dit en revanche la blague à tabac. Même si, comme dirait Franck Michael, toutes les femmes sont belles. Victoire de Pierre Perret dans notre quiz. La danseuse étoile Dorothée Gilbert est notre guide cet après-midi alors qu'on découvre les coulisses de l'Opéra de Paris, une émission où l'on s'ouvre donc à la musique classique, encore trop souvent méconnue ou boudée par le grand public. Moi je vois la dernière fois que j'ai amené un pote à un concert classique.
Je connais celle-là. Si, si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans.
Alors, j'avais oublié.
Dorothée Gilbert, c'est évidemment Omar Sy dans
Intouchable.
Dorothée
ouais.
Gilbert, on a évoqué la partie travail colossal du métier de danseuse et de danseuse étoile. On va parler de la partie sentimentale maintenant, la vie sentimentale d'une danseuse étoile. Parce que vu de loin, on s'imagine, alors c'est extrêmement glamour, on imagine une vie tout entière dédiée au glamour. C'est compliqué avec les garçons, surtout au début, quand vous n'êtes jeune, pas dans l'adolescence, quoi.
Bah oui, après, je parle encore une fois de mon propre vécu. Il y en a pour qui ça se passe très bien, mais c'est vrai que à l'école de danse, il y a quand même déjà pas mal de garçons qui
s'intéressent
pas trop aux filles, voilà, qui ont déjà choisi une autre voie. On travaille énormément. En plus, moi, je venais de Toulouse, donc mes parents, quand ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas forcément d'amis sur place, donc je ne voyais pas d'autres personnes. On restait quand même dans un cercle assez fermé. Et donc, oui, pendant toute mon adolescence, je n'ai pas eu de petite amie. Alors que c'est le moment où on a justement besoin d'être rassuré par le regard de quelqu'un d'extérieur.
Mais quand même, avec tous ces contacts, là, quand on voit tous ces portées et tout ça, il doit y avoir des petites choses qui se nouent quand même, non,
ben non. Bah, bof.
Ah, ça, c'est terriblement décevant. Parce que moi, quand vous sortez de scène, j'imagine toutes sortes de choses.
Mais vous regardez quoi comme film, vous, quand vous rentrez chez vous? C'est incroyable.
Mais
que
pas du tout. Mais vous voyez le contact physique dans la danse classique. Enfin, c'est vachement beau. Non, mais c'est sûr. Mais
quand on raconte des histoires, voilà, Roméo et Juliette, il y a des bisous
crois,
en scène, etc.
Crois,
non, mais
voilà,
bien sûr.
C'est bien joué.
Exactement, c'est bien joué. Après, pour la plupart, on danse avec des garçons qui n'aiment pas les filles.
J'ai une question sur la grossesse. J'ai l'impression que ça a vachement évolué dans la danse classique. À une époque, une danseuse ne pouvait pas tomber enceinte ou alors elle était écartée. Aujourd'hui, plusieurs danseuses au plus haut niveau ont eu des enfants, sont revenues. Ouais. C'est quelque chose qui devient... Il y a un gros changement de ce côté.
Il y a un gros changement. Encore une fois, c'est vraiment un changement à l'Opéra de Paris. Ce n'est pas pareil dans toutes les compagnies parce que nous, on a la chance d'avoir des contrats à durée indéterminée. Mais tous ceux qui sont intermittents du spectacle et qui ont des contrats à durée déterminée, c'est beaucoup plus compliqué.
Elle aussi porte le tutu admirablement. Elle est l'éditorialiste sport d'Europe 1. Que signifie éditorialiste sport? Ça signifie que contrairement à un journaliste sport normal qui se contente de donner les résultats des matchs, elle peut gueuler que le match était nul. Et aujourd'hui, Virginie Fulpin, je crois que vous allez gueuler encore. Vous m'avez l'air énervée. Que se passe-t-il? On parle tennis.
On parle tennis et on parle lutte des classes aussi parce que voilà,
camarade,
après quelques hésitations, l'US Open aura lieu à New York fin août, début septembre, mais tous les joueurs ne pourront pas y participer. Alors on savait déjà qu'entre Novak Djokovic et le 300e mondial, il y avait un petit peu plus qu'un monde d'écart. Mais là, la différence, elle se matérialise sous nos yeux. Il y a ceux qui comptent sur le circuit et puis ceux dont les organisateurs se moquent éperdument. Alors, c'est compliqué d'organiser un grand chelem en sortie de pandémie. Enfin, sortie, j'espère que je ne m'avance pas trop. Hein. Mmh. Et puis, les organisateurs de l'US Open ont planché longtemps pour savoir comment faire, trouver une solution. Ils avaient d'abord pensé à des mesures sanitaires absolument drastiques pour les joueurs, c'est-à-dire que les hôtels proches du stade seraient réservés aux participants. Les joueurs ne pourraient être accompagnés que d'une personne pendant tout le tournoi, et puis leur seul déplacement ce serait entre l'hôtel, les cours d'entraînement et les cours pour les matchs. Ils seraient testés au Covid plusieurs fois par semaine, mais les stars du circuit ont commencé à râler. Alors il y en a qui ont râlé pour des arguments totalement audibles, par exemple Serena Williams qui ne voulait pas être séparée de sa fille pendant 3 semaines, elle a une fille qui est petite. Raphaël Nadal, lui, trouvait que l'US Open et Roland-Garros c'était un peu trop proche. Et il privilégie Roland-Garros, on ne peut pas trop lui en vouloir non plus. Novak Djokovic, lui, il a des arguments plus discutables. D'abord, il ne voulait pas être cantonné dans un hôtel près de l'aéroport et ne pas avoir accès à Manhattan, le pauvre. Et puis pour lui, c'était hors de question de ne voyager qu'avec une seule personne, alors qu'il a un staff beaucoup plus étoffé. Et c'est notamment là-dessus qu'on voit la différence entre lui et les autres, parce que ceux qui ne sont pas des top joueurs du circuit, bah, ils ont l'habitude d'avoir qu'une seule personne avec eux. Ils font ça à longueur d'année, en fait. Forcément, ils trouvent que les jérémiades de Djokovic sont un petit peu exagérées. Alors, qu'a décidé l'US Open? Surprise, les organisateurs ont écouté les stars, forcément. Hein. Donc, finalement, les joueurs peuvent résider dans des maisons individuelles dans la banlieue chic de New York avec leur famille, et ils peuvent être accompagnés de 3 personnes dans leur équipe.
Et le problème, c'est qu'en fait, donc, tout s'est décidé au détriment des joueurs les moins bien classés.
En fait, en accédant au desiderata des meilleurs mondiaux, l'US Open a fait un choix. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur le site du tournoi, parce que bon, il continue à y avoir un danger, hein, donc, puisqu'on accepte 3 personnes autour des meilleurs, eh bien, il a fallu décider d'annuler les qualifications. Et les qualifs, vous savez, c'est ces matchs qui se déroulent la semaine précédant le tournoi et qui permettent à ceux qui sont classés au-delà de la 100e place mondiale de gagner leur place dans le tableau final. Et bien là, il n'y en aura pas. Et le problème, c'est que pour beaucoup de joueuses et de joueurs, c'est leur gagne-pain, en fait, ces qualifs dans les tournois du Grand Chelem. À longueur d'année, ils jouent des petits tournois, vous savez, des challengers où il n'y a pas grand-chose à gagner. Et là, en plus, cette année, pour arriver à équilibrer leur budget ou juste à gagner un tout petit peu d'argent, étant donné qu'ils n'ont pas pu jouer depuis le mois de mars, c'était la manière de se sauver pour eux. Et c'est raté, donc c'est forcément très difficile à avaler. Et puis en plus, l'US Open a aussi annulé le tournoi tennis-fauteuil.
On ne comprend pas où ils en étaient.
Voilà, donc vous imaginez quand même le message qu'on envoie, c'est-à-dire que bon, soit vous êtes des stars, soit vous êtes dans les profondeurs du classement ou vous êtes handicapé et on s'en fout totalement de vous, c'est ça le message de l'US Open.
J'ai dit qu'elle allait gueuler. Hein.
Ouais, voilà. Bah, c'est-à-dire
raison,
que pendant.
Mais en fait, elle a raison.
Vous savez quoi? Moi, j'ai une idée. C'est que.
Oula.
Non, mais le gagnant qui va gagner je ne sais combien de millions de dollars, encore une fois, pour l'US Open.
Oui, c'est
entre 2 et 3. Et bien, il va le donner à l'ensemble des joueurs pour répartition.
Il y a des cagnottes solidaires qui ont été mises en place de la part des joueurs de tennis. Mais en fait, le problème, c'est que pendant tout le confinement, on a lu, entendu qu'il fallait réfléchir à de nouvelles façons de faire le sport professionnel. Et puis là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est encore pire qu'avant.
Excusez-moi Virginie, mais ça me fait penser dans ce que vous disiez tout à l'heure, Dorothée, vous disiez que vous étiez mal payé à l'Opéra de Paris. On parle des salaires invraisemblables des joueurs de tennis qui gagnent 2 à 3 millions d'euros en gagnant un tournoi. Mais quand vous dites que vous êtes mal payé, vous gagnez quoi concrètement à l'Opéra de Paris quand on est danseur étoile? C'est-à-dire qu'on est au firmament d'une procession.
Vous
allez répondre à la question. On avait, Nathalie Dessay nous avait répondu sur les
salaires des
cantatrices. Vous pouvez y aller.
Non, mais je vais pas vous révéler de chiffres, mais il faut savoir qu'on est assimilé fonctionnaire et on est payé par le ministère de la Culture.
Directement. Et voilà. Donc, tout de suite, ouais. Ça ne peut pas monter trop haut. Quoi. Voilà.
Donc ça veut dire que vous avez une grille de salaire.
On a une
par
grille
exemple.
De salaire.
D'accord.
Ça, c'est quand même étonnant. Et vous gagneriez beaucoup plus dans le privé, si j'ose dire, dans d'autres
entreprises. Bien sûr, si j'étais freelance, bien sûr, parce que quand on fait un spectacle en freelance, quand on est invité pour un gala ou quelque chose comme ça, on gagne entre 3 500 € pour le gala.
Excuse-moi, je sais que ça représente beaucoup d'argent, mais oui, mais.
Non, mais évidemment, c'est moins que si Djokovic va faire un tournoi d'exhibition quelque part.
Non, mais c'est ça.
Évidemment.
Bah, lui donnez pas trop mauvaise idée, parce qu'en ce moment, c'est pas une bonne idée.
Si je faisais juste deux galas par mois, je gagnerais plus que ce que je gagne en ce moment à l'Opéra.
Et bien voilà, elle a répondu à la question. Il suffit juste de prendre votre calculette. Merci beaucoup, Dorothée Gilbert, et merci, Virginie Fulpin. Je constate, Virginie, pour le regretter, que vous refusez de serrer la main de votre rival dans cette manche.
Question de fierté, sans doute. Question de revanche, peut-être.
Ça déconne pas, hein. Talentueux, sympa et drôle, Benabar est notre équipier sauvage cet après-midi à l'occasion de la sortie de son nouveau single « Tous les divorcés ». Alors, quand je dis drôle, soyons précis, peut-être pas aussi drôle que Thomas Dutronc qu'on recevait vendredi.
Ah bah, c'est un groupe que les vegans n'écoutent plus du tout.
Et oui, bien vu, mais drôle quand même. Pour nous, Benabar, une chanson, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans vos chansons, Benabar, une chanson drôle n'est pas forcément légère.
Oui, ça c'est quelque chose auquel j'adhère vraiment, et je parle pas des miennes, je parle des chansons de Renaud, qui en fait ont toujours une profondeur, mais comme souvent les sketchs, en fait, les meilleurs sketchs, d'ailleurs parfois même il y a quelque chose d'assez cruel ou assez profond, mais qui est traité justement par l'humour, et quand c'est bien fait, ça lui donne une puissance encore supérieure que le pathos, évidemment, qui a plutôt tendance à tout écraser sous des tonnes de guimauves.
C'est vrai. Je pense à la chanson, je ne sais pas pourquoi ça me vient, la chanson de Renaud à HLM. Enfin,
Une
chanson qui est drôle, mais qui est très dure.
Exactement.
Aussi,
et ça, je trouve ça savoureux quand on écoute une chanson. Alors, Renaud excelle là-dedans, mais il y avait des chansons de Brel aussi, de Brassens, de plein d'autres, quand on la réécoute et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un deuxième sens, je trouve ça très agréable en tant qu'auditeur.
Face à vous, mon cher Benabar, un journaliste ultra connecté. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, il y a 6 mois, il découvrait Facebook. Pendant le confinement, il a compris ce qu'était Instagram. Là, grâce à sa fille, il vient de découvrir TikTok. Même si au départ, il a eu un peu de mal à le prononcer.
De toute façon, peu importe, maintenant, c'est Ching Chang parce que c'est chinois.
Mais heureusement, sa fille l'a briefé et maintenant, il a tout compris. Et comme les enfants qui viennent de comprendre un truc, il est si excité qu'il en parle à tout le monde.
Ma fille est sur TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Puis le matin, ils se montrent des trucs sur TikTok. C'est dingue, hein. C'est chinois, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
Dieu soit loué, aujourd'hui, Axel, vous ne nous parlez pas de TikTok, mais de nos grandes écoles de commerce françaises qui cartonnent, Axel.
Eh oui, parce que moi, je suis un journaliste à l'ancienne, je lis encore le Financial Times, vous savez, cette presse papier qui est en train de mourir.
Et vous lisez même pas en numérique.
Et c'est écrit en étranger, en plus.
En étranger.
Et donc, il y avait League of the Best Table of Master of Finance in the World, donc le classement des meilleurs masters en finance.
On dirait un faux truc, tu sais, on dirait la Polytechnic School of London.
Le classement des meilleurs masters en finance au monde. Et master, c'est ce qu'on fait en toute fin de cursus scolaire.
Oui, je te remercie, j'en ai un, c'est bon.
Mais il y a des gens qui ne savent pas, Mathieu, mais égoïste.
Non, mais parce qu'il me regarde, pardon, je m'adresse
à des millions de téléspectateurs.
Un master de quoi?
J'ai fait une école d'études politiques.
Oula, ça se voit que tu mens. Faut mieux mentir.
Bon, j'essaie juste d'être modeste, j'ai fait Sciences Po. Bon bref, Axel de Parler.
On se balance ses études, quoi.
Ouais.
Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, classement des meilleurs masters de finance au monde. Et quelle ne fut pas ma surprise, c'est un hit parade mondial. Vous avez par exemple, numéro 1, HEC, donc à Paris. Numéro 2, ESCP, à Paris. Oui. Numéro 3, Schema. Schema, c'est Sophia Antipolis et Lille. Numéro 4, ESSEC, c'est à Cergy Pontoise. Numéro 5, EDEC, c'est à Lille.
Mais c'est quoi?
Et vous avez numéro 8, le MIT de Boston, bon, que 8e. Numéro 10, Oxford, London, qui est 10e. Le premier chinois est 13e. Les 5 meilleurs masters de finance au monde sont 1, 2, 3, 4, 5 français. Mais... Et après, vous avez le reste du monde. En plus, il y a plein d'autres français derrière.
Mais je croyais qu'on était nuls dans les classements universitaires.
Pour les universités, mais pour l'enseignement, c'est de la finance, pour l'enseignement de la finance, les meilleurs au monde, et d'ailleurs l'article qui va avec ce classement, dit « on est désolé, il y a des choses qui changent, et il y a des choses qui ne changent pas, c'est que les meilleurs masters de finance au monde sont toujours français ». Et alors j'ai enquêté, j'ai fait mon travail de journaliste, j'ai appelé HEC, ils sont numéro 1 depuis très longtemps. Ils disent « mais oui ». Pourquoi est-ce que c'est en France que vous avez les meilleurs masters, les meilleurs enseignements de finance? Parce qu'en France, les meilleurs élèves, et Anissé le sait, sont incités très tôt et ne feront plus toute leur vie que des maths. Pour entrer dans une école de commerce, pour entrer à HEC, on croit qu'on fait du commerce. Pas du tout. On vous fait faire des maths niveau maths sup, maths spé. Et vous voyez bien, en terminale, les bons élèves font des maths. Alors qu'à l'étranger, les bons élèves, ils font ce qu'on appelle, aux États-Unis, etc., des humanités. On va leur demander, faites du droit, et ils vont faire des doctorats, pourquoi pas, sur la poésie bavaroise au Moyen-Âge, vous voyez. Mais oui, c'est comme ça à l'étranger. Il n'y a qu'en France où on a cette obsession des mathématiques, ce qui fait que quand vous sortez de ces écoles-là, vous avez une capacité analytique et vous êtes un génie de la finance.
Oui.
Alors,
dommage qu'ils ne gouvernent pas la France.
Oui, alors justement, qu'est-ce qui gouverne ces gens-là? Ils gouvernent les salles de marché qui nous ont foutu dedans en 2008.
Voilà, d'accord.
Vous savez que tous les subprimes, ça a été typiquement inventé, là, tous les produits dérivés.
Oui, c'est
les
ingénierie
CDO.
Financière, ça a été inventé par des cerveaux.
C'était Fabulous Four, là, Fabulous Fab de Goldman Sachs. Ils sortaient tout droit de ces masters de finance. Et il y avait une école française. C'est en fait la crise de 2008. Ce sont des petits génies français qui sortent de ces meilleurs masters qui l'ont. C'est nous, hein, les architectes de tous les subprimes. Je voulais juste terminer sur un truc, parce que la bonne nouvelle, parce que je les ai eus, j'ai dit, mais vous n'avez pas honte quand même ou...
quand on connaît votre gentillesse et votre politesse, je vous vois mal au téléphone avec HEC après trois questions, on va dire,
mais vous n'avez pas honte.
Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu responsable des dérives qu'on observe parfois sur les marchés financiers, sans remonter jusqu'à la crise des subprimes? Réponse, ah mais non, mon bon monsieur, ça a complètement changé. Maintenant, dans ces masters de finance, on n'apprend plus qu'une chose, et c'est 80% de notre temps, c'est la finance verte.
Non, c'est vrai?
Eh bien oui, c'est comment intégrer le climat dans l'équation financière, comment réintégrer les milliers de milliards de Wall Street vers la finance. C'est ce que demandent maintenant tous les actionnaires.
Ça, c'est ce qu'on leur enseigne peut-être à HEC.
C'est ce qu'on leur enseigne, mais tout ça pour dire
qu'autrefois,
on apprenait à faire péter la planète finance dans ces masters de finance, et peut-être qu'on est maintenant en train d'enseigner comment sauver le climat grâce à la finance.
Il fallait dire la planète, c'est comme ça faisait une bonne chute.
Sauver la planète. Ah oui, faire péter la planète finance, et là...
Ah, mais je pensais que vous l'aviez fait exprès.
Non, je l'ai fait exprès.
C'est bien de voir un peu le work in progress entre vous, comme ça, comment se fait l'émission. En fait, on le voit, on l'écoute en direct.
Je pense que ça passionne les auditeurs.
Effectivement, les auditeurs sont très intéressés par ça. D'ailleurs, ouais, beaucoup de retours là-dessus. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Anissé, vous avez envie de réagir à la chronique de votre rival?
Oh, j'aimerais bien, mais je préfère dormir, malheureusement.
Oh, ça c'est mesquin. Vous êtes au cœur de L'Équipée Sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. 2 heures d'infos et d'humour menées tambour battant par un présentateur dont tout le monde s'accorde sur le talent. Et à l'instar de Cadmerad, notre invité vendredi dernier, qui disait de moi à l'issue d'une énième pirouette verbale certainement brillante.
Il est bon, hein? Il est balèze, hein? Il est pas que con.
Bon, bref. Son talent fait un peu plus l'unanimité que le mien. On est heureux de passer l'après-midi avec une des romancières les plus lues de France, Aurélie Valogne. Vous publiez aujourd'hui Née sous une bonne étoile chez Mazarine. On continue d'en parler. Mais l'heure est venue d'écouter notre troisième concurrente du jour. Elle souffre du syndrome Gilles de la Tourette, ce qui rend la performance qui va suivre d'autant plus méritoire.
Pipette, la blanquette.
Oui, Ève, respirez fort.
Zazette.
Oui, on y va. Aujourd'hui, Ève, vous réhabilitez un mal-aimé, le gras. On a une vision du gras qui est complètement... C'est pas seulement esthétique, c'est on pense que le gras, c'est mauvais pour la santé.
Et voilà. Mais alors, cet éloge du bourrelet m'est venu parce que vous allez voir arriver dans les librairies des tas de bouquins qui disent la même chose avec des titres réjouissants. Le monde merveilleux du gras chez Erol. Le charme discret de notre graisse aux éditions Actes Sud en écho au charme discret de l'intestin. Oui. Alors, pourquoi tant d'égards pour ce petit bourrelet? Vous remarquez, on dit toujours petit parce qu'il est sympa, il est utile et inoffensif. On verra après à quelles conditions. Alors, pourquoi il est bourré de qualité, ce gras? D'abord, parce que c'est un réservoir d'énergie. On a tous entre 10 à 15 kilos de graisse sur nous. C'est l'équivalent de 80 000 calories qu'on a en nous en cas de pépin, quand on est malade, en cas de famine. Alors c'est vrai, c'est un peu moins courant. Et ça veut dire qu'on peut rester sans manger entre 30 et 40 jours. Et ça, c'est très important. 30 et 40 jours.
Grâce à nos kilos de graisse. Ça, je vous le confirme.
Non, mais ça, c'est psychologique. Et puis, cette masse formée par 50 milliards de cellules adipeuses communique avec tous nos organes, avec notre cerveau, par exemple, pour nous dire, pour réguler nos comportements alimentaires. Ce petit gras, c'est, on dit toujours petit, hein, sécrète aussi des hormones pour favoriser la fertilité chez les femmes. Et pour toutes celles qui se désolent de voir arriver ce petit bourrelet à partir de 50 ans, c'est inéluctable, je vous le dis. C'est même pas la peine d'essayer de lutter contre. Qu'elles se réjouissent, car contrairement à ce qu'on croit, il amortit les effets secondaires de la ménopause.
Oui, il a marqué aussi d'autres choses, d'autres circonstances, mais ça, on visualise pas bien. Oui.
Enfin, il nous protège des centaines de polluants que nous rencontrons chaque jour. C'est-à-dire qu'au lieu que ces polluants viennent attaquer nos organes, eh bien, ils restent dans cette graisse, ils les stockent. Donc, c'est ça qui fait que...
Oh, j'ai acheté un Dyson, moi, pour ça. Il y a en fait des graisses utilisées pour filtrer les trucs.
Ah, ben,
si j'avais vu, ça m'aurait pas coûté 650 balles.
On parle des femmes, Mathieu, pour l'instant.
Comment c'est on parle des femmes,
on parlera des hommes ensuite. Mais attention, tous ces avantages que je vous décris là avec beaucoup de délectation, c'est à certaines conditions.
Alors, comment on sait si notre bourrelet, là je parle d'un point de vue théorique, moi personnellement je n'en ai pas, comment on sait si ce bourrelet n'est pas trop gros?
Eh bien voilà, parce qu'après, s'il est trop gros, et ben, tous les effets positifs s'estompent. Alors on va faire une petite étude de cas avec Laurence Plumet, qui elle a écrit Le Monde merveilleux du gras, va nous dire comment on sait si notre bourrelet est trop ou pas assez gros.
Ben, tout simplement, on le prend à main nue. Tant qu'il est là de façon tout à fait modeste et discrète, ça va, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand on saisit son petit bourrelet à pleine main, qui commence à occuper une bonne partie de la main, et qu'on voit que le ventre derrière n'est pas plat, mais qu'il est bombé, ça veut dire que nous commençons à avoir de la graisse profonde.
Alors, est-ce que vous avez compris? En fait, oui, il faut le prendre, et si la main est pleine, c'est que ça va, c'est pas bon.
Bah, si, on a, on a des petites mains.
Votre main sont à peu près proportionnées à votre bourrelet.
Non,
votre
moi j'ai des petites mains par rapport à mon corps. C'est pour ça que ça me paraît ce bourrelet gros, alors que pas du tout.
Il faut s'auto-tester, parce que si tu prends la main...
De quelqu'un d'autre.
Ouais, ça marche. Ouais.
Qui veut toucher mon bourrelet?
Oui. Mettez un peu de clim dans ce studio, s'il vous plaît.
La graisse profonde, et voilà. Et voilà, c'est le début de la catastrophe. Elle ne reste plus en surface, mais va se déposer sur les organes, et ça ne leur fait pas du bien. Sur la paroi des artères, par exemple. Et la graisse, alors, commence à fabriquer des maladies bien connues, celles que vous avez en tête, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Et là, il faut faire quelque chose... absolument tout de suite, parce que c'est vraiment dangereux pour la santé. Donc faire quelque chose, c'est surtout pas de régime restrictif, comme on dit, mais du sport, et beaucoup. Une heure de marche par jour et 2 à 3 séances de gym par semaine.
Est-ce que c'est pareil pour les hommes?
Alors eux, ils ont moins le petit bourrelet que les femmes. Ils n'arrivent pas à la cinquantaine comme nous les femmes, c'est une histoire hormonale. Mais là, grâce à Laurence Plumet, j'ai découvert quelque chose qui m'a émerveillée. Vous savez pourquoi les hommes, ils ont... Le ventre, quand ils sont gros, ils ont un ventre gros et dur. Ils n'ont pas le petit bourrelet douillet comme les femmes.
Ils ont le bidon, quoi.
Et bien, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la graisse, elle se cache derrière la ceinture abdominale. Donc, devant, il y a les abdos et derrière, il y a le gras. Et c'est pour ça que les hommes...
Ah bah, je redis l'inverse, moi. Ah oui, d'accord.
C'est parce que le gras se cache sous la ceinture abdominale.
On pourrait imaginer quelqu'un qui a des tablettes de chocolat, mais
c'est ça.
Au sommet d'un ventre proéminent. Et voilà. Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, qui a la spécificité de manger dans un restaurant gastronomique le midi et le soir, vient d'arriver et il nous montre son ventre pour nous prouver que ses abdos sont bel et bien là. On fera un test grandeur nature tout à l'heure. Vous ôterez votre petit pull.
Et la graisse en dessous.
Et la graisse en dessous.
Voilà la différence entre les hommes et les femmes.
Mais finalement, on n'est pas mieux lotis.
Non, c'est pas mieux parce que c'est pas très joli, ce gros ventre dur, vous voyez, chez les hommes. Enfin, vous ne l'avez pas, vous êtes parfait. Oui.
Je vous remercie, Eve, parce que vous avez failli déraper. Eva, je sens que ce sujet vous inspire.
Oui. Est-ce que je suis en train de me dire que tous les efforts que je fais, tous les abdos que je fais, dans bientôt, parce que j'ai bientôt 50 ans, c'est mort, quoi.
Mais arrêtez de dire que vous avez bientôt 50 ans.
Bah si, quand même.
Vous en êtes très loin, Eva, rappelons-le. Eva-t-on 39-21, continuez d'appeler. Merci, Eve Roger. Votre réhabilitation du gras vous permettra-t-elle de retrouver cette première place qui a longtemps été la vôtre? Seul l'avenir et notre invité nous le diront. Chaque dimanche, il présente C'est Politique, une émission qui parle de politique différemment, avec toujours un pas de côté qui la rend passionnante. Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Mathieu.
Déjà, ça vous fait quoi de vous retrouver face à un micro bleu et blanc?
Ça fait 10 ans. Que
ça
je suis
fait
parti.
10 ans.
Ouais, j'ai presque envie de pleurer.
Bah oui.
Et c'est vrai qu'il y avait des, il y avait quoi?
Il y avait des siestes.
Il y avait des siestes. Il y avait des repas arrosés. Ça marchait super bien. Mais ça va revenir.
Ça va revenir. C'est en train de revenir, Karim. On va parler du succès de C'est Politique, votre émission qui dépasse souvent les 900 000 téléspectateurs. C'est ça, Karim?
C'est ça.
C'est Politique. Si vous connaissez pas, c'est cette émission de France 5 chaque dimanche à 18h35 où on parle politique ou en tout cas d'enjeux politiques, mais sans homme politique.
C'est original.
C'est votre martingale. Mais en fait. Ça marche très fort et je pense que plein d'émissions vont vous imiter maintenant.
Je crois qu'ils ont un peu commencé à nous imiter. Il y a des interviews politiques le matin sans homme politique maintenant sur certaines radios.
C'est vrai.
Et ce qui est assez fou, c'est qu'on l'a mis en place l'année présidentielle, en 2016. Donc c'était un peu compliqué de dire on a une nouvelle émission avec des nouvelles têtes, vous ne connaissez pas. Et en plus, vous ne connaîtrez pas les invités non plus. C'est super. mais effectivement, ça marche parce que oui, le postulat, c'est que la politique appartient à tout le monde. Mais ici aussi, vous parlez de politique tous les jours aussi à votre manière. Donc,
non, vous confondez, vous écoutez une autre radio. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes politiques, vous les trouviez à force de les fréquenter trop rodés à l'exercice journalistique.
Oui, et puis ils étaient partout. Ils étaient partout. Il y avait 15-20 interviews politiques par jour quand on a commencé l'émission.
Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous en termes d'audience. Mais est-ce qu'au début, ça a été difficile à imposer à la chaîne cette volonté de ne pas recevoir de politique?
Non, la chaîne était plutôt pour ça. Ça a été compliqué pour nous, en interne. Quand on commence à inviter des intellectuels qu'on veut en plus s'imposer la parité homme-femme, etc., etc., on se met des contraintes assez énormes, mais au bout du chemin, ça fonctionne.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas aussi arrivé à un moment où la génération d'hommes politiques, c'était à la fois les anciens qu'on n'arrêtait pas de voir partout, comme vous dites, et puis la nouvelle génération qui n'était pas très connue non plus,
si,
des
c'est
Français,
vrai.
Et pas
moi,
forcément intéressante.
Après Europe 1, j'ai fait un détour par Canal+, à une époque où il y avait encore dans le personnel politique des gens comme Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. 2007 par exemple, alors, j'étais encore à Europe, mais c'était une année où on avait envie de stariser les politiques. Et c'est vrai et c'est, je pense, très bien que ça ait changé. Les politiques sont devenues peut-être des personnalités un peu plus normales, entre guillemets, qui doivent faire leur job de politique, et du coup, puisqu'ils ne sont plus des stars qui vont sur les plateaux télé. Et c'est vrai qu'on est arrivé aussi à ce moment-là, je pense, de l'évolution du personnel politique.
Qui sait, il va peut-être vous réconcilier avec les émissions politiques. Il présente ses politiques chaque dimanche à 18h35 sur France 5. Karim Rissouli est avec nous cet après-midi. Un ancien de la maison, désormais présentateur de ses politiques sur France 5, une émission qui a pris acte que les débats politiques entre politiciens étaient souvent stériles, voire inaudibles.
Assez, vous faites un joli métier.
Madame,
quelle salope de la part du gouvernement.
Karim Rissouli a pris un autre parti, celui de parler de politique avec des gens qui n'en font pas. 800 000 téléspectateurs en moyenne pour ces politiques chaque dimanche sur France 5. Est-ce que vous imaginez déjà que le concept marcherait à ce point?
Pas du tout.
Vous aviez des objectifs d'audience, des
non,
trucs comme ça?
Quand on a récupéré la case, elle devait être à 380 000 environ.
Vous l'avez plus que doublé.
384, bon ok, je sais. Bon, elle devait être
le
ça.
Mec qui regarde pas les chiffres.
Pas du tout, jamais. Donc oui, non, on avait déjà l'objectif de faire aussi bien. On se disait que ça allait être compliqué, qu'on installait une nouvelle, voilà, encore une fois, une nouvelle marque avec une nouvelle façon de parler de politique. Non, je pensais jamais qu'on serait... On est quasiment tous les dimanches à plus d'un million entre 19h et 20h. Et je ne pensais pas qu'on en serait là, mais je pense qu'on va continuer à monter.
Avec donc des non-politiques, mais des personnes quand même qui ont un avis sur notre société,
sûr,
sur la politique, comme Ariane Ascari, par exemple, dimanche.
Qui ne viennent pas pour me dire que leur programme est le bon et que celui de l'autre en face n'est pas le bon. Alors, Ariane Ascari, elle est comédienne, elle vient, elle parle avec son cœur. Elle n'a pas fait une thèse de philo ou de sociaux, mais elle vient, elle nous parle de ce que c'est qu'être une femme et de ressentir la misogynie dans un corps de femme. On a parlé antisémitisme avec elle, on a parlé évidemment de la question sociale avec son dernier film. Et on reçoit aussi beaucoup de sociologues, de philosophes, d'historiens. Et c'est assez jouissif, justement, d'avoir quelqu'un en face de soi et de se dire, je suis pas là pour le coincer. Je suis là pour qu'on soit tous collectivement plus intelligents à la fin de l'émission qu'au début.
Alors Karim, aujourd'hui, vous êtes un journaliste reconnu, mais pourtant, votre destin aurait pu être tout autre. Les pelouses angevines portent encore la trace de vos pierres crampons. Vous avez commencé par la section sport-études au collège. Vous auriez pu devenir footballeur ou journaliste sportif au dernier mondial. Vous auriez pu vous égosiller.
J'aime Mbappé, tu aimes Mbappé, il aime Mbappé, nous aime Mbappon, vous aime Mbappé, il aime Mbappé.
Pas de regret de ce côté-là d'avoir choisi plutôt le journalisme politique dans un premier temps plutôt que le journalisme sportif.
Je pense surtout
passion.
Que le foot ne m'a pas choisi lui au départ. C'est-à-dire que j'aurais adoré être footballeur professionnel, mais j'étais pas suffisamment bon, je pense. Mais c'est vrai, Mathieu Charry me regarde.
Faudrait rétablir une vérité sur cette histoire de foot de carrière.
Alors, Mathieu Charry qui connaît bien Karim Rissouli, avant
vraiment que je vote pour lui.
Il y a eu quelques mois en sport-études qui ont été un échec.
Non, il y a eu quelques années en sport-études qui n'ont pas été un échec, mais il y a eu une sorte de légende urbaine. Il disait que j'avais fait le centre de formation du SCO d'Angers et que j'étais à deux doigts de devenir professionnel, ce qui n'est pas vrai.
Mais vous faites une émission sans politique, vous pouvez faire un match sans footballeur.
C'est vrai. Mais c'est grâce à Jean-Philippe Ballas que je pense que je... Non, et c'est vrai, quand je suis arrivé à Europe 1, j'étais très jeune.
C'est Jean-Philippe qui a fait de vous le journaliste que vous êtes.
Il m'a pris par la main.
Oh la vache, Charrier, vous n'allez pas avoir les points, vous, aujourd'hui. Hein. C'est mal barré pour vous. Karim, vous êtes né à Angers, mais votre papa est originaire du Maroc.
Ouais.
Et vous dites, vous racontez que vous avez été longtemps tiraillé par cette double culture.
Oui, quand j'étais donc franco-marocain, enfin, marocain par mon père, français par ma mère, et j'habitais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une zone périurbaine. C'est un micro-village, petite ville à côté d'Angers, où on était la seule famille arabe du coin. Et effectivement, je me sentais pas totalement français là où j'étais et pas du tout marocain quand je retournais au Maroc l'été. Donc quelques séances de psy m'ont bien aidé à l'adolescence
à traverser
tout ça.
C'est la première fois et sans doute la dernière que nous recevons une danseuse étoile dans L'Équipée Sauvage. Dorothée Gilbert avec nous. Vous, on plonge dans l'univers d'habitude assez secret du ballet et de l'Opéra de Paris avec ce livre Étoile au Cherche Midi, le récit d'une passion mais aussi d'une lutte pour atteindre les sommets. Est-ce que lorsqu'on est sacré danseuse étoile, ça y est, on considère qu'on est au sommet, on sent qu'on ne peut pas faire mieux? Ou bien, comme Pavarotti, ça m'avait beaucoup marqué dans un reportage, Pavarotti, on lui disait « mais vous êtes le plus grand chanteur au monde ». Il dit « oui, je chante pas mal, je chante bien, mais la nuit, dans mes rêves, je m'entends chanter parfaitement et j'y arrive jamais ». Est-ce que quand on danse à un si haut niveau, on rêve toujours de faire mieux ou on voit des gestes qu'on n'arrive pas à faire ?
Bien sûr, et c'est justement ça qui fait qu'on continue à s'améliorer, qu'on a toujours envie de travailler, et qu'on a toujours envie de... Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une quête de perfection. C'est-à-dire que la perfection n'existant pas, on peut toujours faire mieux.
Et c'est ça qui définit les étoiles, je pense, en vous écoutant. C'est-à-dire que parmi tous les excellents danseurs, ceux qui sont obsédés par la perfection finissent, enfin, s'ils ont les qualités pour, étoiles.
Oui, il y a ça. Puis il y a aussi quelque chose d'assez injuste. Hein. Il y a le charisme, comment on prend la lumière. Est-ce que tout d'un coup, on remarque quelqu'un en scène? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas travailler. Hein.
Oui, et là, sur les photos dans le livre, on comprend effectivement que la lumière, vous la prenez assez bien. Lui, Dorothée, tout petit déjà, il rêvait de devenir un jour chef du service économique et social d'Europe 1. Il a bossé dur et son rêve est devenu réalité. Mais Emmanuel Duteil, vous avez su conserver votre âme d'enfant. C'est pourquoi vous nous parlez cet après-midi de la réouverture des parcs d'attractions. Vous-même, je crois que vous avez été très marqué par votre expérience de Space Mountain.
Ça, je vais monter et descendre la bourse d'un coup d'un seul.
Oui, l'image est belle. Emmanuel Duteil, les parcs d'attractions, on est fan en France.
Ouais, c'est bien, je suis vachement crédible pour commencer la chronique. Vraiment. Le mec est bien en place.
Solide sur vos appuis.
Vous dites que vous allez voter pour moi parce que tout ça est très très crédible. Mais j'ai envie de vous parler de Disneyland parce que Disneyland va rouvrir le 15 juillet, on l'attendait tous. Alors pas question, attention, hein, de venir sur un coup de tête. Va falloir obligatoirement réserver à l'avance son billet. Le nombre de visiteurs sera limité pour répondre bien évidemment aux contraintes sanitaires. Alors si vous aviez déjà réservé pour cette période, rassurez-vous, votre billet reste valable. Donc Mathieu, vous pouvez emmener votre fils si vous avez déjà votre billet. Sur place, toutes les attractions seront ouvertes, même celles qui font peur à votre fils. Il y aura un marquage au sol pour les files d'attente. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans et dès l'entrée du parc. Hein, c'est la règle en vigueur pour le moment, mais qui pourrait quand même évoluer pendant l'été. Par exemple, du côté du parc Astérix, ils ont déjà un petit peu fait évoluer la règle, hein, puisque jusque-là ils avaient dit qu'il fallait le masque tout le temps, mais quand on se balade dans le parc, on peut maintenant quand même ôter son masque. À Disney, tous les restaurants et les magasins, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie, vont être ouverts. Mais attention, si vous aimez ça, les spectacles sont annulés pour le moment, y compris le feu d'artifice.
Je comprends pas pourquoi.
Compris la fameuse parade. Alors pour compenser, il y aura un petit peu plus de personnages de Disney qui vont se balader. Mickey devrait beaucoup plus se balader à la rencontre des visiteurs pour faire des selfies. Alors vous m'expliquez pourquoi il n'y a pas la parade, mais on peut quand même faire des selfies. Les câlins, attention, en revanche avec Mickey. Pas de câlins, Mathieu, on ne peut pas faire de câlins ensemble.
Je note et je m'en désole. J'aimerais savoir qui est Mickey, alors, qui se cache dans Mickey. Les parcs d'attractions, vous nous le disiez, et moi c'est une surprise pour moi, cartonnent en France.
Ouais,
on est un pays de parcs d'attractions.
Des parcs à sensations, des parcs à thème, alors ça va des volcans, le monde en miniature, la France médiévale, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi bien évidemment les parcs animaliers. Au total, on a 300 parcs de loisirs qui sont un petit peu partout en France. C'est tout simple, on est leader européen en la matière. Grosso modo, il n'y a que les États-Unis qui font mieux que nous. 60 millions de visiteurs par an. Donc c'est comme si chaque Français allait chaque année dans un parc d'attractions. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et un parc, bien évidemment, qui écrase tout
Disney,
le monde, c'est Disney.
Première
destination touristique d'Europe. Hein, 16 millions de visiteurs. Mais vous avez plein de parcs qui cartonnent. Le Puy du Fou, je ne sais pas si vous êtes déjà allé.
Hein,
on est vraiment au fin fond de la Vendée. C'était un pari totalement fou. Ça cartonne. Le Futuroscope, après des années très compliquées, cartonne aussi. Ce qui est vraiment la clé de nos parcs d'attractions, et peut-être là, c'est vraiment le succès, c'est qu'ils investissent énormément. C'est-à-dire que chaque année, vous avez de nouvelles attractions et c'est vraiment la clé du succès. Je vous donne un exemple. Le Futuroscope a par exemple inauguré là, il y a quelques semaines, son premier Grand 8. C'est-à-dire que même au Futuroscope, maintenant, vous avez des sensations fortes.
Ah, c'est ce qui manquait au Futuroscope. Bah,
oui,
des
vrai.
Bonnes grosses sensations.
Oh, il y avait déjà des
dans
trucs
des grands
pas mal.
Qu'est-ce qui explique que ça fonctionne si bien chez nous?
Alors, déjà, vous allez sûrement trouver ça tout bête, mais la première raison, c'est la météo. Donc, depuis quelques années, il fait plutôt beau l'été. Et notamment, bah oui, mais c'est pas toujours le cas.
En Espagne, il y a aussi une bonne météo, non?
Oui, mais vous avez moins de parcs parcs d'attractions.
Ah oui, d'accord. Oui.
Non, mais en tout cas, en France, ce qui explique que les parcs d'attractions se portent bien en ce moment, c'est la météo. C'est déterminant, puisqu'on va dans un parc d'attractions principalement quand il fait beau. La deuxième raison, c'est qu'on passe de plus en plus nos vacances en France. Et surtout, on fait de plus en plus de courts séjours. Et donc aujourd'hui, les parcs d'attractions sont vraiment devenus des destinations de vacances. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'hôtels qui s'ouvrent autour des parcs d'attractions. Et puis, alors c'était vrai ces dernières années, on va voir si c'est encore le cas cet été. Les gens, notamment après les attentats, après tout ça, ont eu envie de se retrouver ensemble, de passer des moments joyeux. On va voir si l'après-Covid ouvre également cette période, si on a envie finalement de se retrouver dans un cercle que l'on connaît. Et donc à ce moment-là, les parcs d'attractions pourraient également en profiter.
Dorothée Gibert, vous avez le droit de faire Space Mountain ou contractuellement, il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire, de choses dangereuses.
Ouais, par les attractions,
c'est peut-être pas très très dangereux, mais certains sports, certaines activités.
Je pense qu'on n'est pas suffisamment bien payé pour qu'ils nous interdisent de faire des choses. Contractuellement, on a le droit, on peut tout faire.
Ouais.
Mais ça, c'est très
rien
étonnant.
N'est interdit.
Je crois que les joueurs de foot, ils ne peuvent pas faire.
Mais oui, mais on n'a pas les mêmes salaires.
Oui, vous n'avez pas les mêmes salaires, mais l'enjeu est aussi énorme. Si vous
l'enjeu
vous
est aussi énorme. Mais après, c'est notre propre responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de faire du ski. J'en faisais des pistes noires à l'âge de 9 ans, 10 ans. Et j'ai arrêté le ski parce que si je me pète les ligaments croisés, bah, c'est un an et demi d'arrêt.
Et ben voilà, 42 ans. Retour au ski.
Voilà, mais je me le dis, bien sûr, avec plaisir. Je vais être trop contente.
Merci Emmanuel Dutheil pour
rien,
cette petite parenthèse enfantine.
Mais pas du tout.
je voulais juste vous relancer là-dessus parce que on met une petite pièce dans la machine et c'est reparti. Comme elle fait la programmation de cette émission avec moi, elle est fan de tous les chanteurs qu'on reçoit. Enfin, sauf évidemment quand ce jour-là, c'est moi qui ai pris la décision tout seul dans mon coin. C'est arrivé une fois, il y a quelques mois, mais elle avait bien fait semblant de kiffer quand même avec cette phrase.
Moi, j'adore le voir sur scène, mais j'écoute pas le disque quand je suis chez moi.
Et ben, aujourd'hui, par chance, vous aimez bien le voir sur scène et écouter ses disques.
C'est mieux, je peux vous le faire, parce qu'en plus, c'était...
Oui, non, mais en fait,
non,
c'était...
Non, je sais de qui c'est.
Oui, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais pas sur
c'est
scène.
C'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup.
Mais pas en disque.
Non, mais parce que... Oui, enfin bon, voilà.
Bon, on peut le citer, parce qu'il n'écoute pas Europe 1.
Bah, c'est possible.
C'est Biril Lagrène,
ouais,
c'est le plus grand guitariste
Lagrène,
du monde,
mais
tout
j'adore
simplement.
J'adore le voir sur scène et le
et vous n'écoutez
que je
pas ses disques,
pas,
mais c'est comme ça. Et vous êtes libre de vos choix, Eva. Comme vous en rêviez, je vous laisse un peu seul à seul, je vous laisse un instant seul avec Benabar.
Je voulais juste revenir sur votre côté très narcissique, Bruno Benabar. Non, parce qu'en fait, alors moi j'adore les écrans, donc je regarde un peu tout ce que je peux et j'ai un rendez-vous incontournable qui est Taratata. Et dans une vidéo qui était destinée au site de Taratata, vous dites parfois vous faire une petite soirée narcissique sur YouTube, vous regardez tout ce que vous avez fait. Alors je me suis demandé si c'était de la provoque ou si c'était vraiment vrai.
Non, et c'est vrai parce que en fait je regarde pas du tout ce que j'ai fait. Les films, les trucs comme ça, jamais. Mais des fois, ça me prend pour... ça commence par pour checker un peu ce qui s'est passé, est-ce que j'ai été bon. Des fois, d'ailleurs, en début de promo, pour voir un peu ce qu'il faut corriger, etc. Et puis, on se prend un peu au jeu. Et puis, à partir de la deuxième bouteille de rouge, on finit à 4h du matin à regarder des vieilles images. Donc, j'ai des périodes très égotiques, mais qui sont très momentanées.
Vous le faites seul ou en famille? Genre, est-ce que vos enfants, ils regardent avec vous, ils vous disent « Ah, papa, là, t'as changé ?»
Non, je le fais tout seul. J'ai pas de mes gosses.
Ah, moi, j'impose à mes enfants.
Alors, justement, c'était mon autre question. Est-ce que vos enfants écoutent vos chansons? Alors, aujourd'hui, mais celles des précédents albums, notamment?
Ah bah, ils sont obligés, parce qu'on n'écoute que ça à la maison.
D'accord.
Puis porte le t-shirt de la tournée, tout ça. C'est une dictature. Hein, c'est vrai, ouais, c'est...
Est-ce que par exemple, ils ont écouté La Berceuse?
Ouais, ils ont écouté La Berceuse. Et puis, c'est vrai qu'ils sont touchés aussi par ces chansons où je parle d'eux, ouais. Fatalement. Puis là, d'ailleurs, mon fils pour qui j'ai écrit La Berceuse, là, il est grand maintenant, il a 16 ans. Donc, j'ai fait sur le dernier album une chanson sur lui qui s'appelle Un Lego dans la poche, qui parle du moment où on devient... un grand gars, quoi. Et j'explique qu'il faut qu'il garde un Lego dans la poche, qu'il n'oublie pas cette période-là. Donc j'ai suivi, j'ai assez éhontément raconté sa vie, d'ailleurs.
Il va vous faire un procès ?
Il va peut-être me faire un procès, il est procédurier comme sa mère.
Mais d'ailleurs, ça sera quoi les thèmes du prochain album ? Si vous pouvez déjà nous dire. Non, non, bien sûr que non.
Ce procès, parlons-en, vous avez un bon avocat.
Ça aborde pas mal de thèmes et on n'a pas fini d'ailleurs justement parce que le confinement a changé un peu l'inspiration, même s'il n'y a aucune chanson sur le confinement, mais j'essaye encore de raconter des choses comme les divorcés, des chansons aussi un peu plus sombres sur la vie, le temps qui passe, mais en cultivant ce côté que moi j'adore, le côté divertissement, moi j'y crois beaucoup, on en parlait un peu tout à l'heure, avoir toujours ce côté joyeux et divertissant au sens spectacle qui est souvent un peu laissé pour compte, dans, surtout avec beaucoup de chanteurs de ma génération qui ont un côté plus sombre, plus renfermé. Moi, j'aime bien le côté clown, spectacle, et que les chansons soient marrantes et sympas, quoi.
Et ça se sent sur scène.
Son nouveau single « Tous les divorcés » vient de recevoir le label Mathieu Charrier. C'est pas rien. L'album est dans les cartons. Benabar est notre invité jusqu'à 18h. C'est une compétition, mais une compétition bon enfant qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1. Car même si en France on a toujours aimé se tirer la bourre, c'est un peu dans nos gènes, la période est plus à la bienveillance. Comme dirait notre invité Benabar.
Ouais, tu sais, les gens ont beaucoup changé hein, depuis l'élection de Sarkozy. Ils sont plus cool, plus détendus, plus conviviaux.
Hey, j'ai senti ça aussi depuis l'élection de Sarkozy. Benabar, depuis vendredi, c'est ça.
Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end.
Comme avec Eva, on la fredonne depuis vendredi, ouais. Je pense que ça va être un tube, ça va bien marcher, hein, c'est ce nouveau single. Ouais.
Mais c'est étonnant d'avoir déjà un single sans que l'album soit vraiment terminé. Non,
ça arrive.
Oui, ça arrive. Et puis on profite aussi maintenant des plateformes, etc. Ça change un peu la façon de promouvoir la musique. Et plutôt pour le bien d'ailleurs, ça détend un peu le truc. Avant c'était très monolithique, on sort un album, un single. Maintenant on laisse un peu faire les choses.
Dans certaines branches musicales, on en parlait avec Bob Sinclair l'autre jour, dans tout ce qui est électro et tout ça, je crois même que la notion d'album maintenant est en train de disparaître, oui, un peu, parce que c'est Spotify qui décide.
Exactement.
On sort plutôt un titre et ensuite, enfin, l'album, ouais, n'est plus un but en fait. Hein,
exactement. Alors des fois c'est dommage parce qu'il y a des albums un peu,
oui,
conceptuels, mmh,
voilà, dans un sens, ouais.
Mais le monde évolue et puis voilà, faut vivre avec. C'est pas forcément un inconvénient en fait.
On continue de parler de ce nouveau titre, de l'album qui se prépare et de la tournée qui va reprendre. Mais là tout de suite, eh ben, c'est l'heure du florilège.
Du florilège, ouais. Deux séquences au programme de notre florilège du jour. C'est ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux avec Sébastien Bordenave, notre producteur. Alors la bonne humeur de Bruno Solo qui propose des exercices pour ne pas oublier le monde d'avant. Et puis nos confrères de Combini News qui nous encouragent à aller au cinéma pour voir un documentaire qui s'appelle Mon nom est Clitoris. 12 jeunes femmes témoignent sur leur rapport à la sexualité.
En fait, à la fin de chaque interview, on posait une dernière question, on disait « Est-ce que tu as envie de parler d'un truc ?» Et trois fois sur quatre, c'est le consentement qui revenait.
Les sites ou les articles qui disent comment tu dois être au lit, quoi. Genre, soit la bonne salope pour ton mec, mais en même temps, sois pas trop une salope parce que ça craint, quoi. Mais après, pas où on se situe là-dedans aussi, quoi.
On en est là, en fait. On en est toujours là. Et c'était, on a tourné le film avant MeToo.
Bonjour, ça y est. Enfin, on peut se retrouver entre potes, camarades, copains, autour d'une bonne bouffe ou d'un bon apéro. Parce qu'une fois qu'on n'aura plus besoin de faire ces fameux gestes barrières, est-ce que nous serons prêts aussi pour à nouveau nous serrer la main ? Premier exercice, le bisou. Je me penche en avant, attention, le dos bien droit. Léger mouvement de la nuque vers l'avant, je désaxe la tête vers la gauche. Bisou. Je recule la tête, je la désaxe vers la droite. Bisou. Alors en fonction des régions, c'est 2, 3, 4, bisous. Voire 9 dans la gueule.
Et vous verrez, il y a plein de petits exercices comme ça qui sont assurés par Bruno Solo.
Je veux pas trop le griller, Bruno Solo, mais les gestes barrières, il n'était pas encore très très au point au tout début du confinement. Je me souviens qu'il y avait du bisou encore avec Bruno.
Oui. Est-ce que ça vous manque les bisous, Benabar?
Oui, moi je fais partie de ceux qui sont très tactiles, serrer les mains, prendre, faire des bisous, etc. Ça manque quand même.
On l'a dit tout à l'heure, vous avez été obligé d'interrompre évidemment votre tournée au moment des mesures sanitaires.
Ah non, moi c'était la demande du public, ça n'a rien à voir. Ah non, on s'en fout, c'est pas le Covid du tout.
Il y a eu des
pétitions. Est-ce que tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît?
Je voulais dire un mot de vos musiciens, des intermittents du spectacle, parce que vous, on le sait, il y a les droits à scène qui tombent du dîner, donc c'est bon. Mais pour tous les musiciens, ça a dû être absolument terrible, tous les gens qui tournaient avec vous. Plus dur encore que pour vous, quelque part, financièrement parlant.
Absolument, c'est vraiment dur pour les intermittents. Alors, le gouvernement a promis de les soutenir financièrement. J'ose pas imaginer qu'ils ne le fassent pas. Donc, ils les ont vraiment soutenus en faisant un chèque. Donc, ça permet quand même aux intermittents de survivre. Mais c'est sûr que ça va être très compliqué, comme malheureusement dans tous les jobs. Mm-hmm. Je pense à la restauration, enfin à tout le monde en fait.
J'ai cru que vous pensiez à la radio, parce que je ne vais pas vous nous regarder.
La radio, non mais vous êtes intouchable, vous avez des dossiers sur tout le monde, on ne peut pas vous faire invirable.
Ça c'est vrai, il faut toujours avoir des dossiers sur les gens.
Ah bon?
Calmez-vous, Eva. Vous aimez le Munster, mais et vous vous dites qu'avec la semaine de canicule qui nous attend, c'est vraiment le moment de s'enfiler du frometon. Mais vous aimez aussi les bandes dessinées et les surfeurs un tout petit peu enveloppés. Europe 1 est la seule radio à réunir tous ces éléments disparates en une seule émission. Règlement de compte à l'heure du goûter aurait pu être le titre de cette émission. Chaque après-midi, sous l'œil, tantôt choqué.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais on n'est pas amis.
Tantôt, au contraire, excité.
Chaud comme une baraque à frites.
D'un invité d'honneur, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se défient. Aujourd'hui, c'est la romancière à succès qui a réussi à vendre plus de livres que Marc Lévy en 2018. Aurélie Vallone qui nous accompagne pour la sortie de son dernier roman, Né sous une bonne étoile aux éditions Mazarine. C'est votre sixième roman. Est-ce que vous avez, maintenant que vous êtes une pro de la littérature, des rituels d'écriture ? Vous écrivez chaque jour sur un créneau régulier ou vous écrivez quand l'inspiration vous vient ?
Alors, en fait, moi, ce que j'appelle travailler, je le fais sur le temps, de mes enfants, le temps scolaire de mes enfants. Donc, je dépose le matin à 8h30. J'écoute la radio, je lis le journal. Et puis après, je commence à travailler de 9h30 jusqu'à 16h.
Toujours ça, qu'il y ait une idée ou pas.
Ah oui, tous les jours, tous les jours. Oui. Et après, je ne me mets pas devant l'ordinateur. Ah, je travaille.
Enfin, alors, vous faites quoi ?
C'est là où, quand on est écrivain, travailler, ça veut dire beaucoup de choses. Et en fait, ma phase d'écriture se divise un peu en deux grandes parties. J'ai à peu près 4 mois de réflexion, de lecture, d'interview. Je vais sur le terrain, j'interview des profs, des orthophonistes, etc. Donc vraiment une grosse partie de recherche pour étayer mes personnages. Et après, j'ai une partie plutôt de 2 mois d'écriture dans l'ordinateur du premier jet. Mais je ne commence pas l'écriture tant que je n'ai pas mon plan, le fameux plan que recommandait Bernard Werber. Et donc toute cette partie-là se fait avec un crayon dans mon fauteuil, à gribouiller. Et j'ai l'air d'être complètement dilettante. Et en fait, pas du tout.
Est-ce que c'est angoissant pour vous ?
Non.
Cette période de l'écriture, on dirait pas du tout, c'est étonnant.
Non, c'est pas du tout angoissant. Et c'est pour ça que je peux pas avoir la peur de la page blanche, parce que j'ai tellement de préparation en amont qui se fait de manière assez relaxe. J'ai des carnets, je gribouille, je fais des petites bulles qui partent dans tous les sens, ce que mon personnage aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Que quand j'arrive devant mon ordinateur, je sais exactement ce que je dois écrire, chapitre 1, qui parle, qui dit quoi. Et je déroule le film dans ma tête et je le tape à l'ordinateur. Donc pas du tout stressant.
Alors Aurélie Vallone, comme nous tous, vous étiez, je pense, restée sourde aux appels des astrophysiciens des Marseillais à Miami qui, en 2015 déjà, nous alertaient sur l'existence d'une deuxième lune, une lune cachée en orbite autour de notre planète. Et bien, c'est de cette incroyable découverte que va nous parler à présent notre ultime concurrent du jour. Un scientifique éminemment rigoureux, directeur de la prestigieuse revue Ciel et Espace, même si, attention, Alain Sirou sait également s'amuser. Il n'est pas rare qu'à la fin d'un repas bien arrosé, après une petite prune, il propose à ses convives un jeu rigolo et coquin de son invention. C'était très sympa samedi soir.
Vous allez imaginer un cube. Ce cube, il a des faces. Et puis sur une des faces, on a collé une sorte de petite pastille. Ouais. On pose ce cube sur la table et vous allez vous concentrer sur ce cube. Vous allez l'imaginer. Vous allez faire rouler le cube. Vous avez le cube dans la tête. Allez, à gauche, en avant, à droite, en arrière, à droite. Où est la pastille ?
Mais voilà, Alain, il y a un temps pour s'amuser entre amis consentants et un temps pour bosser. Ce soir, la question se pose, avez-vous vu deux lunes à l'issue de la soirée où il y a vraiment deux lunes dans le ciel, Alain ?
Alors, il y a vraiment en ce moment deux lunes dans le ciel. Il y en a une qui est visible et l'autre pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire une lune ? Ça veut dire un satellite naturel. Bon, un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Ça peut être un satellite artificiel, on en connaît 4000, puis un satellite naturel, c'est la lune. Et on sait aujourd'hui, donc c'était la découverte annoncée cette semaine, qu'il y a une deuxième lune. Alors, elle s'appelle 2020 CD3, vous voyez, c'est un acronyme, qui tourne en 47 jours, qui est présente depuis, on sait, à peu près 3 ans. Puis ce qui va vous faire rire, c'est que ça...
Elle est récente, elle est arrivée.
Elle est récente et elle a la taille à peu près d'une voiture.
D'accord.
Donc, c'est une poussière, c'est un tout petit caillou. Alors, comment... Pourquoi c'est intéressant ?
C'est un bloc rocheux ?
Oui, sans doute, c'est ce qu'on appelle un morceau...
Non, mais... Le mec dirige ciel et stas.
Non mais on ne peut pas y aller, c'est trop petit.
Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous demande pas d'y aller, Alain. Je vous demande juste de la décrire.
Alors, oui, mais je peux pas vous décrire ce que je n'ai pas vu. On a pour l'instant une lumière, c'est-à-dire la photo, c'est un tout petit point. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a découvert ça. Vous savez que des planètes tournent autour du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a oublié Pluton. Et que entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, c'est-à-dire des millions de cailloux, des petits, des gros, qui vont de quelques kilomètres à quelques mètres.
À quelques kilomètres, quand même.
Ah ouais, et qui tournent comme une planète qui serait pas constituée. Puis de temps en temps, par des modifications, des attractions gravitationnelles, certains se mettent sur une orbite qui peut croiser la Terre ou qui fonce vers le Soleil. Donc il y a des perturbations gravitationnelles. Et des astronomes, un jour, se sont dit, mais est-ce que finalement, ça pourrait amener des astéroïdes, donc des cailloux, à se mettre en orbite autour de la Terre de façon naturelle ?
Si je comprends bien, si je vous suis, Alain, cette chose, cet élément rocheux, tel que je l'ai décrit, puisque moi-même, je taquine un peu l'astrophysique, et c'est en fait comme une météorite ou un truc qui serait arrivé vers nous, et au lieu d'arriver sur la Terre ou de se dissoudre dans l'atmosphère, ce serait mis à tourner autour de nous.
C'est exactement ça. Et c'est très difficile à faire parce qu'en fait, il faut une vitesse particulière, il faut un angle particulier. Il faut pas que ça arrive trop vite, sinon ça rebondit, etc. Mmh. Donc d'abord, ils se sont amusés à faire ça sur ordinateur. Ils ont pris des milliards d'astéroïdes potentiels et ils ont découvert que, en fait, ça devait être fréquent. Il devait y en avoir un ou deux qui arrivaient peut-être chaque année. Et ils se sont dit, on va les chercher. Ils se sont mis à les chercher avec des grands télescopes et ils ont découvert pour la première fois, donc c'était en 2006, un caillou, un astéroïde de quelques mètres de diamètre qui tournait autour de la Terre. On a dit, ah, ça y est, on a trouvé une deuxième lune.
Et puis, on l'a dit vraiment trouvé... comme ça, comme Michel Serrault dans la cage de
folle. Ah, on a trouvé une deuxième lune.
Exactement.
C'est fou, c'est fou. Et là, on a évidemment encore découvert un nouvel objet comme ça. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'abord, il peut y en avoir deux, trois. Encore faut-il les attraper, c'est pas facile.
Mais on les attrape avec quoi ?
C'est les attraper, les voir.
Ah non, je sais pas. Mais on peut pas, parce que là, on pourrait décrocher la Lune.
Oui, on pourrait la décrocher, mais elle est quand même un petit peu assez loin, mais vous avez raison. Et puis surtout, ça ne reste pas, c'est-à-dire ça repart.
Ah, mais ouais,
c'est-à-dire
que, partout.
Oui, il y a des. Alors ça repart dans l'espace, c'est-à-dire il y a des instabilités. Ce qui est intéressant au bout du compte, c'est finalement notre Lune à nous. Pourquoi est-ce qu'elle est là ?
Oui, pourquoi elle ne se détache pas, elle ?
Pourquoi est-ce qu'elle reste ? Ouais. Comment elle s'est
formée ? Parce qu'elle est trop grosse pour partir.
Et ce qui est rigolo, c'est de savoir que 50 ans après que l'homme est débarqué sur la Lune, on ne sait toujours pas exactement comment, il y a 4,4 milliards d'années, elle s'est formée, d'où elle vient. Alors on pense que c'est le résultat d'une collision entre un objet qu'on appelait Theia et puis la Terre primitive, qui a formé un disque de débris, ça s'est aggloméré. Oui.
Attendez Alain, parce que là une question me vient, peut-être que je vais passer pour un énorme con, mais juste la Lune, est-ce que la Terre a déjà existé sans la Lune ? La Lune s'est formée après la Terre ou en même temps simultanément ?
Alors on pense que la Lune s'est formée un tout petit peu après la Terre, 100 millions d'années après. D'abord,
100 millions d'années, c'est énorme. Donc longtemps, la Terre n'a pas eu de Lune.
Non, c'est pas grand-chose, 100 millions d'années.
Donc la Lune, par exemple, on pouvait pas draguer sur la plage. C'est pas pratique, ça.
En fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la Lune n'avait pas existé ? Si la Lune n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait ?
Est-ce que la Lune est le déclic de la vie ?
Peut-être. Peut-être que ça a pu stabiliser.
C'est vertigineux quand je pense comme
ça. Peut-être que ça a pu stabiliser. En tout cas, ça a participé.
On avance.
Et au bout du compte, alors c'est ça qui est formidable dans les enfants, la curiosité. C'est-à-dire qu'on prend une anecdote et on tire le fil. Et être scientifique, c'est rester enfant, c'est pouvoir poser des questions en disant « Mais d'où ça vient la Lune ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle reste alors qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas mais qui repartent ?» Et ça, je trouve ça, pour le compte, merveilleux.
Sans Lune.
C'est vous qui êtes
sans Lune, pas d'éclipse. C'est triste.
Sans Lune, pas d'éclipse. On dirait du Jean-Claude Van Damme. C'était du Ébaroque. Bon, félicitons Alain Serrault. Alors, Alain Serrault, bravo pour ce sujet. J'espère juste que vous n'avez pas compris, parce que vous avez dit au début du sujet que la taille de cette petite lune était la taille d'une voiture. J'espère que vous n'avez pas juste confondu avec la Tesla que l'autre a envoyée dans l'espace. Voilà. Ce serait une légère confusion.
Non, et celui-ci est votre con statut, comme la Lune, mais chez lui, il n'y a pas d'éclipse.
Oh, non.
Merci pas de moi. Alain Serrault. Est-ce que ce sera vous le grand vainqueur aujourd'hui ? Réponse très bientôt. C'est un moment important, si ce n'est le plus important de notre après-midi, le moment où l'on décide ce qu'on va bouffer le soir. Pierre Perret, si vous ne le connaissez pas déjà, j'aimerais vous présenter Olivier Pouls. Vous l'avez peut-être déjà croisé au détour d'un couloir d'Europe 1.
Il buvait du vin blanc, et puis après, il disait « Oh, vous n'avez pas de l'agneau ?»
Oh oui, c'est lui, c'est bien lui. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis, est-ce que vous êtes toujours prêts à manger cru ?
Oui, on est toujours depuis prêts lundi, on mange cru, c'est pas mal.
Évidemment, en suivant à la lettre vos conseils et hygiène. Les conseils d'hygiène surtout.
Oui, et je le répète, puisque nous avons préparé du poisson aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant, le poisson le plus frais possible. Et petit conseil.
Je me souviens d'un poisson à la tahitienne que m'avait préparé Maxime Switek, que vous connaissez sur Europe 1. J'ai été malade pendant 3 jours.
Oui, mais ce qui était bizarre, c'est que vous avez été que vous malade alors qu'on était une dizaine dans ce repas.
Pas du tout, sa compagne avait été malade aussi. Oui.
Peut-être parce qu'il s'est resservi 6 fois en fait.
Ouais, c'est peut-être aussi pour ça. Alors attention avec le poisson.
Oui, le poisson, il vaut même mieux le passer au congélateur avant. De le travailler. Oui, parce que le congélateur va tuer certaines bactéries. Alors, pas 100%, mais ça peut en éliminer un certain nombre. Et passer le poisson au congélateur, c'est en principe se garantir un poisson plus sain et en tout cas moins potentiellement toxique. Donc, évidemment, ustensiles toujours impeccables, laver, plan de travail très près. Pour ce qui est du petit de la recette d'aujourd'hui, je vous emmène au Mexique pour faire ce qu'on appelle un aguachile. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
C'est comme un ceviche.
Ça pourrait
comment
y faire un petit peu.
Non, mais j'allais prononcer autrement.
Un ceviche.
Un ceviche.
Un ceviche n'est pas mexicain. Et ben, le
non, mais j'ai dit comme. J'ai dit Pérou, comme.
Comme.
Comme. Oui.
C'est un petit peu l'idée. Donc là, pour le coup, on va prendre des crevettes crues. C'est très, très bon. On va prendre un oignon rouge, du concombre, beaucoup de citron vert, un petit peu de piment et de coriandre. On va tailler notre concombre en fines rondelles qu'on va disposer dans le plat. Dessus, on va déposer de fines rondelles d'oignons rouges. On va prendre les crevettes qu'on va décortiquer. On enlève le petit boyau qui est au milieu, vous savez.
Ah oui, le petit noir là, c'est pas bon.
Voilà. Ouais. On va les tailler en fines rondelles, mais plutôt en fines lamelles. On va poser ça par-dessus. Et on va préparer la sauce. C'est du jus de citron vert avec du piment et de la coriandre.
Mais quel type de piment? Je vous trouve assez imprécis.
Bah alors, soit on a des piments type piment de Cayenne, ou pourquoi pas du piment d'Espelette, ouais. Ou pourquoi pas du piment frais qu'on achète au marché.
Et pourquoi pas du piment oiseau un peu plus fort?
Exactement.
Voilà,
si vous avez envie que ça réveille.
Si on a envie que ça soit robuste.
Mais alors, attention, si vous chargez en piment oiseau, vous pourrez avoir quelques petites surprises.
Mais...
allez-y mollo quand
ça
même.
Ça fait partie de l'aventure. Hein.
Voilà. Bon. Coriandre, et 10 minutes avant de servir, on arrose notre préparation avec cette sauce, et la sauce, elle va légèrement cuire les crevettes. Alors, pas plus de 10 minutes, parce que sinon, ça risque effectivement de trop cuire la crevette, et pas moins non plus, parce que sinon, on n'aura pas l'effet escompté. Donc, 10-12 minutes avant de passer à table, on arrose. Et voilà, on a ce qu'on appelle un aguachile. Viva Mexico.
Viva Mexico. Ce qui sera l'occasion d'écouter peut-être une chanson typique du Mexique. Merci Olivier Pouls pour cette belle recette. Vous écoutez L'Équipée Sauvage, l'émission qui est à l'audiovisuel français ce que les Jeux du Cirque étaient à l'Empire romain. Quatre journalistes avec pour seul glaive leur stylo bic quatre couleurs et leur seul talent pour bouclier. Ils défilent au micro. Celui qui vous aura proposé le meilleur papier sera sacré chroniqueur du jour. Quant aux autres, aux perdants, comme dirait Patrick Cohen, il tremble.
Et se prépare à l'issue fatale.
En attendant ce funeste dénouement, on continue d'analyser l'incroyable succès de notre invitée Aurélie Valogne, dont les romans se vendent comme des petits pains. Et vu la mode du sans gluten, je dirais même mieux que des petits pains aujourd'hui. Le dernier s'appelle Né sous une bonne étoile. Il sort aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est chez Mazarine, on va citer l'éditeur, parce que c'est intéressant. Vous avez commencé en ligne, chez Amazon en fait. Et pourquoi être passé de l'édition numérique à l'édition traditionnel, sachant que, si j'ai bien compris, on était mieux rémunéré en tant qu'auteur via Amazon?
Alors, en fait, moi, je n'ai jamais vraiment choisi de passer par l'auto-édition, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, moi, je cherchais l'avis neutre de lecteur.
Le contact lecteur.
Le contact direct, sans filtre. Ils aiment, ils n'aiment pas. Et pour avoir un avis sur mon roman. Et donc, effectivement, ça s'est emballé très vite. Mais c'est vrai que très rapidement, l'objectif ultime, c'est de voir son livre imprimé et de l'avoir en librairie. Donc, c'est vrai que je renie absolument pas ce tremplin extraordinaire qui a été l'auto-édition. Et je le recommande notamment à ceux qui chercheraient des solutions. Mais après, non, effectivement, ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir voir mon fils qui me dit « Regarde, maman, ton livre, il est là. » Et pas seulement dans un monde un peu virtuel.
Alors, Musso, Lévy, ils sont tous adaptés en série télé. Est-ce que vos livres, est-ce que vos romans vont l'être? Est-ce que c'est dans les tuyaux?
Alors, j'ai été approchée par des producteurs, pas tellement pour des séries télé, pour des films. Après, ça prend du temps. C'est un monde compliqué. Il faut savoir être patient. Donc, je sais que ça se fera un jour. Mais
lequel? Il y en a un en particulier, vous pouvez nous le dire?
Un des premiers. Mais pour l'instant, voilà, je ne...
Voilà, non, les premiers, c'est soit Mémé dans les orties, soit En voiture Simone. Ouais. Je vois déjà, il y a peut-être un rôle pour vous là-dedans. Minute Papillon.
La voiture Simone.
Je ne sais pas lequel c'est. Alors, le saviez-vous, Aurélie Valogne, selon une étude de l'Université d'Oxford, on passe désormais tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir justement ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique qui nous sauve tout le temps. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur les écrans?
Non, c'est sur les écrans. Documentaire événement, c'est à voir sur Netflix. Sur un homme, écoutez, vous avez essayé de reconnaître sa voix.
We're not brutalized because we're Muslims. We're brutalized because we are black people in America.
Vous avez reconnu
Martin
Mathieu?
Martin Luther King.
Presque. Non, pas tout à fait.
Caramba, encore raté.
Malcolm X, c'était la voix de Malcolm X, c'était il y a 55 ans. Petit retour en arrière, le 21 février 1965, il était assassiné lors d'un meeting à Harlem, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Après la fusillade, en fait, les forces de l'ordre ont arrêté un homme qui était sur place, et puis quelques heures plus tard, deux autres ont été interpellés. Ils sont tous liés à ce qu'on a appelé Nation of Islam, c'était une organisation politico-religieuse à laquelle a appartenu Malcolm X avant de s'en détacher totalement. Donc on peut se dire, fin de l'enquête, fin de l'histoire. Enfin presque, parce que ce documentaire revient justement sur cette enquête, nouvelle enquête même menée avec rigueur et pédagogie grâce à un homme. Il s'appelle Abdourahmane Mohamed et depuis des années, il consacre sa vie à Malcolm X et notamment à son assassinat. Et les recherches qu'il va faire démontrent totalement le travail de la police et démontrent surtout qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui perdurent, notamment concernant le rôle du gouvernement américain. Et il revient notamment sur l'arrestation de ces trois hommes. Parce que le seul qui avait été arrêté sur place a bien avoué sa participation au crime, mais a innocenté les deux autres et a évoqué un commando de 5 personnes qui sont toutes liées à Nation of Islam. Eh bien, la justice n'a jamais enquêté sur cette déclaration. C'est un seul des petits éléments révélés dans ce documentaire. Vous en verrez, il y en a beaucoup de scoops, comme on dit. Et cette enquête, eh bien, elle pourrait aboutir à la réouverture de l'enquête, dit le procureur de Manhattan. Il y a un examen préliminaire du dossier qui est en cours et qui permettrait d'engager de nouvelles investigations, ce qui est quand même assez rare. Ça s'appelle « Qui a tué Malcolm X ?» et c'est à voir sur Netflix en 6 épisodes.
C'est bien fait en termes de documentaire, genre, c'est prenant.
Il y a des cliffhangers. Le récit est génial, les archives sont incroyables et le nombre de témoignages est absolument bluffant. C'est vraiment très très réussi.
En 3 minutes, on en a gagné 17. Merci Eva Rock. Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures d'une balade rieuse dans l'actu en compagnie d'un invité d'honneur aujourd'hui, l'auteur à succès Aurélie Valogne qui publie aujourd'hui même « Né sous une bonne étoile », son 6e roman. Alors, balade rieuse dans l'actu, ok, mais escortée. Car là où nous entraîne maintenant notre expert high-tech Anis Mbida, le net, le World Wide Web, comme dit ma tante Josie, le danger est au détour de chaque page, de chaque onglet, de chaque cookie, au détour de chaque chat avec un inconnu qui vous propose vite des trucs chelous.
Montre-moi ton kiki, par exemple.
Heureusement, pour nous guider dans ce monde hostile, Anis Mbida est là. Aujourd'hui, vous nous parlez des MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC, Anissé ? Il faut expliquer à ma tante Josie.
Alors, MOOC, si je veux traduire, c'est Massive Open Online Courses. Ça veut dire, grosso modo, c'est une bibliothèque de cours sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cours parfois très interactifs, avec des vidéos, avec des QCM, etc. C'est très, très... Ça se développe énormément. Il y a des milliards, mais des milliards, milliards de sujets qui sont développés, parce qu'on a tendance à dire qu'Internet, c'est du buzz, c'est des réseaux sociaux, mais ça peut aussi être un très bon outil d'apprentissage pour découvrir des vocations. Oui. Vous nous avez expliqué, Aurélie, que la vocation, l'envie d'écrire, en tout cas, se préparer mentalement à l'écriture, ça a été fait par un tuto sur YouTube. On a l'impression on pense que le tuto YouTube sur YouTube, c'est simplement des jeunes filles qui apprennent à se maquiller.
Ou pour apprendre
des garçons,
à faire une blanquette de veau, quoi.
Ou des garçons qui trucident des zombies. Non, on peut avoir des choses très, très intéressantes avec des sujets extrêmement variés. Alors, du côté artistique, moi, j'ai noté qu'il y a François Berléand qui explique comment devenir acteur, comment ne pas devenir acteur. Oui, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les capacités d'y aller, c'est exactement comme pour l'écriture. Chantal Thomas qui explique la création de mode, tout ça, c'est des masterclass qui sont mises en ligne sur Internet.
Mais attendez, ils font tout ça gratuitement là ?
Non.
Si j'étais François Berléand.
Il y en a certains qui sont gratuits directement sur YouTube, mais sinon, il y a des organismes, notamment des MOOC, très formatés, et évidemment, quand les choses sont de qualité, il faut souvent les payer. Alors là, on parle de sujets artistiques ou des sujets du spectacle, mais ça va très très loin, ces fameux MOOC. Il y a énormément de sujets sur la gestion, le marketing, les sciences, le développement personnel. On en trouve un peu partout. Par exemple, un sujet comme l'intelligence artificielle, c'est peut-être une des compétences les plus réclamées aujourd'hui. Il y a un MOOC notamment qui est très connu, un MOOC qui est au CNAM, celui du site du CNAM, un MOOC gratuit, qui explique, même aux personnes qui ne sont pas des mathématiciens, qui ne sont pas des scientifiques, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se développe, comment s'intéresser, comment pratiquer, comment y aller tout doucement. C'est des cours qui durent plusieurs semaines si on veut les suivre, et même certains sont sanctionnés à la fin par un diplôme. Mais en tout cas, vous avez fait la formation et donc ça veut dire quelque chose.
On peut le mettre sur son CV.
Oui, ça veut dire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, on a, je vous ai parlé de ceux du CNAM. On cherche la question qu'on se dit, mais il y a des milliards de cours en ligne, comment je trouve les bons ? Alors, bon, je vous ai parlé de ceux du CNAM, on parle de l'intelligence artificielle, des sujets comme la mécanique automatique et la production, la psychologie au travail, il y a des sujets extrêmement variés. Il y a des cours qui sont plus souvent payants. Sur tous les sujets à la mode, c'est chez LinkedIn. On pense que LinkedIn, c'est simplement de la mise en relation, mais il y a beaucoup de cours de formation sur des compétences très, très pointues. Une société qui s'appelle Udemy aussi, Open Classroom, où pour tous les sujets à la mode, par exemple, le management compassionnel, le marketing de conversation.
Le management que je pratique moi, non ?
Oui.
Un petit peu.
Alors, vous n'avez pas fini le cursus, en fait.
Non, il n'a pas commencé.
C'est pas validé la formation, mince.
Je sais pas, gérer son irréputation, la méthode Six Sigma ou la méthode Scrum, c'est des sujets qui sont très à la mode aujourd'hui dans les entreprises. Eh bien, on peut aller s'informer à son rythme, c'est surtout ça qui est intéressant, tranquillement, en allant sur les cours sur Internet. Ça va très loin. Il y a aussi, pour son savoir-faire universitaire, la plupart des grandes universités mondiales ont mis leurs cours en ligne sur Internet. Il y a des sites comme EDX, Coursera, France Université Numérique, où c'est l'ensemble des grandes écoles françaises qui ont mis leurs cours en ligne. On peut les suivre directement en ligne. C'est extrêmement intéressant. Et même pour des notions plus simples, on en revient à YouTube. YouTube, si vous voulez, par exemple, savoir comment faire un tableau croisé dynamique ou faire un publipostage sur Word.
Tu ne sais même pas ce que ça veut dire.
Ah, ouais. Je note de moi, Aurélie.
C'est pas gentil, Aurélie.
Pour une fois, j'avais compris, moi.
C'est pas gentil, je suis juste nul.
Vous allez sur YouTube et on vous explique ça par le menu. C'est très bien fait.
Vous, maintenant que vous êtes au top, Aurélie, vous faites vous-même des tutos ? comme Bernard Werber le faisait. Vous expliquez aux gens comment faire des romans ?
Non, en fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée. J'ai beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui regardent mon parcours avec des grands yeux, notamment parce que je suis passée par l'auto-édition. Moi, aujourd'hui, mon énergie, effectivement, je la mets plus sur les romans que j'écris et la démocratisation de la lecture. Donc, je vais beaucoup en école. Par contre, un jour, je pense que effectivement, je donnerai des cours d'écriture, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire. J'ai pas le temps.
Vous n'avez pas le temps. Anissa,
il y a un sujet qui a du mal à se développer, c'est l'apprentissage des langues, parce que l'apprentissage des langues, il faut pratiquer. C'est pas simplement écouter quelqu'un. On peut apprendre certaines notions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en développe aujourd'hui des podcasts en anglais. Donc, on écoute dans le métro, dans les transports, etc. Et on s'informe de la langue. Il y a un truc très intéressant, c'est des plugins sur Netflix pour apprendre la langue en regardant ses séries préférées.
C'est génial,
un système
ça.
Qui met deux sous-titres en même temps. Ouais. Vous avez les sous-titres en anglais, les sous-titres en français. Et quand vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus, il donne le dictionnaire. Vous pouvez ralentir la vidéo pour pouvoir bien entendre ce qui se passe. Et
donc, mais là, tu regardes un épisode de Game of Thrones, ça te met trois soirs à regarder. Quoi.
Oui, mais là, le but du jeu, c'est pas de regarder la série.
Oui,
c'est
notamment,
il faut le faire sur des séries qu'on connaît déjà. Comme ça, on n'est pas obligé on déconnecte l'histoire de l'apprentissage. Mais ça permet d'apprendre du nouveau vocabulaire et surtout de s'habituer ses oreilles avec l'accent qui n'est pas forcément évident.
Oui, j'ai fait des cours de l'histoire de l'art avec un
super,
MOOC.
Superbe intervention. Merci beaucoup, Eva, pour cette petite précision, cette info en plus qui ravira nos auditeurs. Voilà. Merci, Anissa Mbida. Votre chronique vous permettra-t-elle de décrocher la précieuse couronne de chroniqueur du jour ? Que vaut Axel de Tarlé face à vous ?
C'est une tapette sur un moustique.
Non, je vous en prie, non. Restons chic et sport, les amis. Si elle n'avait pas été journaliste, elle aurait pu être chauffeuse de salle, voire chauffeuse tout court. Chaque jour, Eva Rock m'aide à instaurer avec l'invité un lien particulier, parfois même très particulier, comme hier avec Benabar.
Je ne suis pas encore divorcé, mais la journée n'est pas terminée. Surtout dès que tu me fais des clins d'œil depuis tout à l'heure, donc Dev.
J'ai une paupière qui clignote, hein, vous m'excusez. Hein.
Bon, alors aujourd'hui, Eva.
C'était marrant qu'il me dise.
Oui, bien sûr. Alors, avec notre invitée, la danseuse étoile Dorothée Gilbert, s'il vous plaît, moins de clins d'œil, plus de questions.
Oui. Non, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressée dans votre livre qui s'appelle L'abandon, enfin abandon plus clairement. Vous revenez sur la part de technique et la part d'interprétation quand vous dansez et la place des émotions aussi qui est très importante à vos yeux. Qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle ou pas ? C'est justement l'aspect technique ou c'est au contraire ce que vous allez pouvoir mettre comme émotion dans le personnage ?
Moi, ce qui me plaît le plus, c'est interpréter des personnages. Donc, ça va être qu'est-ce que le rôle a à raconter, quelle va être la puissance du personnage.
Mais alors, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire que vous avez un agent qui vous dit, voilà, vous avez reçu tant de propositions pour tant de rôles et vous choisissez, ou c'est pas du tout comme
pas
ça.
Pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le directeur de la directrice ou le directeur de l'opéra qui choisit les ballets qui sont donnés à l'opéra, qui choisit qui va danser les ballets, avec qui, pour combien de spectacles.
Il n'y a pas du tout de démocratie interne dans l'opéra de Paris. C'est le choix vient d'en haut. D'accord.
Il y en a pas trop.
Mais vous pouvez refuser un rôle.
Oui, on peut dire si on ne se sent pas à l'aise dans un rôle, oui.
Ouais.
Mais en règle générale, non, on ne postule pas vraiment. Et de toute façon, si la directrice ou le directeur n'a pas décidé de vous mettre sur ce rôle, vous ne le saurez pas quand même.
D'accord. Et le rôle que vous avez le plus joué dans votre carrière ?
Gisèle.
Et c'est le rôle que vous avez le plus aimé aussi ?
Ça fait partie des rôles que j'aime le plus, avec Roméo Juliette, Manon, Onéguine. Voilà.
Que des grands rôles de romantique.
C'est ça. Des histoires d'amour tragiques.
C'est là que vous l'avez bien retrouvé. Non. Elle se raconte dans un livre magnifique intitulé Étoile, la danseuse étoile au parcours inspirant. Dorothée Gilbert est notre invitée jusqu'à 18h. Vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures pour rentrer chez soi, ivre de bonne humeur et complètement bourré de savoir. Une émission toujours placée sous l'égide d'un invité d'honneur dont le rôle est d'évaluer nos journalistes et, le cas échéant, se foutre de leur gueule. De ce côté-là, Benabar hier a fait un sans faute.
Moi j'ai toujours dit un ch'touille, j'aime bien. Ça vient de quoi chouille ? De chouillard ? Un chouillard ? Mais Louis Chédid était plutôt d'accord avec ce néologisme.
Tu veux dire Louis Chédid ?
Aujourd'hui, c'est la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui nous accompagne pour son livre passionnant de plongée dans les coulisses de l'Opéra Paris et surtout plongée dans les coulisses de sa carrière, magnifique carrière. On en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, comment va l'Opéra de Paris ? Il y a des articles qui se multiplient dans la presse, j'ai eu dans le Figaro la descente aux enfers de l'Opéra de Paris, il y a eu des grèves avant le confinement, il y a eu le confinement. C'est une situation compliquée que vous vivez en interne, qu'est-ce que vous vous dites entre vous ?
Bon, on n'a jamais vécu ça, c'est sûr. Enfin, c'est-à-dire que là, autant de spectacles annulés, c'est une catastrophe, quand même.
Et donc vous avez peu performé,
un peu dansé. Un peu dansé, ah bah oui, bien sûr.
Et votre niveau baisse ou l'entraînement suffit à rester
Non,
au top ?
L'entraînement ne suffit pas. Il faut savoir que pour avoir une forme physique vraiment intéressante, ouais. il faut avoir des spectacles très régulièrement parce que plus on enchaîne les spectacles, plus notre corps est en forme. Quoi. Donc, c'est facile.
Pour que votre corps soit en forme, est-ce qu'il y a des règles drastiques à respecter au niveau de l'alimentation? On imagine, est-ce que justement, on parlait de contrat tout à l'heure, est-ce que votre contrat vous empêche de vous faire un kebab sauce samouraï?
Pas du tout.
Ça nous arrive avec Eva.
Non, pas du tout. Ah non,
vous avez le droit, mais vous le payez le lendemain, quoi, c'est ça?
Non, pas le kebab samouraï, parce que quand on danse et qu'on fait 6 heures de répétition le lendemain, oui. on élimine le kebab.
Ouais. Ouais. Pas d'alcool en revanche.
Mais voilà, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, quand je danse, je bois pas d'alcool parce que, en plus, j'ai eu pas mal de déchirures au mollet. Je me suis rendu compte que depuis que je buvais pas, je m'en faisais plus. Donc, bon, entre autres.
Mais... Et surtout ne pas boire avant la plantation. Moi, une fois, j'étais Romain et Juliette bourrés. Je veux dire qu'effectivement, Juliette m'a reçu en pleine gueule. Bah, bref.
Et alors, est-ce qu'à 42 ans, vous allez fêter ça avec un grand verre d'alcool?
Mais non,
c'était la meilleure question de l'émission. Question pointue.
Mais vous en rêvez de ce verre d'alcool?
Oui, c'est vous qui rêvez, ne transposez pas.
Dorothée, c'est pas vrai.
Pendant les vacances, je bois. Hein,
de temps en temps.
Nous voilà rassurés, vous pouvez venir à la maison. Super! Taquinez vos zygomatiques tout en secouant vos neurones, voilà la mission de l'équipée sauvage. 2 heures à la frontière de l'info et du rire en compagnie d'un invité vedette aujourd'hui, Pierre Perret, et des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre culture G. Alors justement, voici venir notre première concurrente du jour, vous la retrouvez sur France 5 dans le magazine de la santé. Notre vétérinaire Farah Kasri a une double mission dans l'équipée sauvage, vous faire découvrir des choses incroyables sur les animaux et... me guérir de ma phobie des chauves-souris, ou plutôt nous guérir, puisque d'autres membres de l'équipe sont visiblement aussi flippés que moi. Sur le premier point, c'est gagné. Sur le deuxième, en revanche, il reste encore du boulot, comme on a pu le constater hier durant la coupure pub. La salle des chauves-souris du zoo de Beauval, c'est une terreur. Ça devrait être interdit. Tu rentres dans la salle et tu crois que les chauves-souris sont derrière les vitres, comme dans tous les zoos. Je rentre en premier derrière le truc, et là je sens une chauve-souris, et je sors en disant...
De toute façon, j'ai peur de tout ce qui vole. Même les pigeons, ça m'arrive de mettre par terre sur le trottoir.
Cet après-midi, oh là là. Jurez-moi une chose, que vous ne parlerez pas du zizi de la chauve-souris, parce que rien que le mot, ça me donne des frissons.
Ah, c'est dommage, parce que ce sont des spécialistes du cunnilingus, donc bah non, j'en parlerai pas.
Ah,
j'en parlerai pas.
Ah bon?
Mais qu'est-ce que alors, bah, si, pourra... si, bah alors là, vous en avez
non,
trop dit.
On en parlera
Pierre,
la prochaine
Pierre
fois.
Pierre Perret
mais...
était belle, ah, bah, on veut savoir. En quoi?
Je voudrais savoir.
Savoir.
Ils s'y prêtent pour le radala, alors là, parce que
exactement.
Ça fait comme un pébroc à l'envers.
Eh bah, exactement, effectivement, le fait qu'elle puisse avoir la tête en bas et l'organe génital féminin en haut, eh bien, elles peuvent facilement se faire des petits câlins. Ce sont des espèces qui sont extrêmement câlines, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Elles se font beaucoup de mamour, elles sont assez collées les unes aux autres et elles vivent vraiment en colonie, elles ont besoin de contact.
On appelle ça des câlins, c'est des prises électriques. Hein,
c'est vrai que le mot câlin ou mamour pour un cunnilingus, c'est vous avez une manière qui est de parler qui est très jolie. Merci Farah. Alors racontez-nous le zizi des autres animaux, puisque c'est le thème de votre chronique.
Oui, oui, forcément, moi, qu'on m'a dit, Pierre Perret était là, forcément, j'ai pensé au zizi animal. Et saviez-vous que la première espèce à avoir eu un organe génital d'intromission, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle d'un point de vue scientifique, eh bien, on l'a vu chez un poisson à carapace qui a vécu il y a environ 400 millions d'années. Eh bien, depuis, cet organe masculin n'a cessé d'évoluer, de s'adapter au mode de vie et à la stratégie de reproduction des espèces. C'est pour cette raison que l'on retrouve des formes, des tailles et même certaines curiosités de la nature quand il s'agit du pénis des animaux.
Quelle espèce a le plus petit pénis? Question des Varocs de Paris.
Bah non. Alors ça m'étonnerait que ça soit
non,
moi qui pose cette question.
La suivante, ça sera celle des Varocs. Voilà. Ça, c'est la question que je pose moi.
Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le gorille.
Pardon,
le gorille a un pénis qui mesure à peine 3 à 5 cm.
Oh,
alors
déception.
Qu'un mâle, hein, le mâle adulte, un mâle adulte, vous imaginez, il mesure à peu près 1,50 m avec 160 kg. C'est que du muscle et pourtant, son zizi ne mesure qu'à peine 5 cm au maximum. Et bien, selon les primatologues, ce n'est pas un handicap pour lui puisque chez les gorilles, il y a un seul mâle alpha. Pour un groupe de femelles, c'est un système en harem et la taille du pénis chez les gorilles, eh bien, ce n'est pas un critère de séduction. Et apparemment, cela ne réduit pas du tout le taux de reproduction. Ce n'est pas la taille du zizi qui fait l'efficacité.
Vous connaissez...
Eva
vous connaissez...
fait nom de la tête.
Non,
hein.
mais
vous n'êtes pas gorille, Eva.
Vous connaissez
je parle
de gorille, c'est pour ça que j'ai bien insisté. Hein.
Vous connaissez le bon mot de Coluche hein, qui disait « c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux ». Et il précisait, et moi ça m'arrange.
Justement, la voilà la question des Varocs qu'on attendait.
Qui a
la plus longue?
Alors, chez les mammifères, logiquement, c'est la baleine bleue. Puisque la baleine bleue mesure déjà 30 mètres, donc on peut imaginer que son pénis va être aussi long. Donc effectivement, c'est entre 2 et 3 mètres. Mais quand on compare 2 à 3 mètres par rapport à la taille globale de l'animal qui est de 30 mètres,
oui, c'est pas...
c'est plus si impressionnant que ça finalement, puisque tout est relatif. Eh bien, l'espèce qui a le plus long pénis, eh bien, c'est un canard argentin, l'adulte, qui mesure à peine 40 cm. Eh bien, c'est aussi la taille de son pénis.
Ah, voilà une proportion intéressante. Ah,
quand même, vous imaginez, c'est quand même, ça commence à être un petit peu intéressant, là. Et il faut savoir que les canards, eh bien, ce sont des exceptions, parce que généralement, les oiseaux, eh bien, ils n'ont pas de pénis. Hein. C'est ce qu'on appelle, ils font une reproduction de cloaque à cloaque. On appelle ça le baiser cloacal, quand on veut être un petit peu romantique en éthologie. Eh bien, chez le canard, lui, vu qu'il a un pénis quand même de 40 cm, hein, et je crois bien que vous n'avez jamais vu un canard déambuler avec un pénis déroulé, eh bien, normalement, pour que ça soit un peu pratique, il est enroulé comme un tire-bouchon à l'intérieur. Donc, et au moment opportun, il va se dérouler pour atteindre les fameux 40 cm. Et l'érection, eh bien, elle est dite explosive, car elle se produit en moins d'une demi-seconde.
Ah, ça se déroule comme un serpentin, quoi. Exactement. Comme une langue de belle-mère, quoi, si j'ose dire.
Exactement.
Et la maman, elle ne s'y attend pas, elle en prend plein les moustaches.
Oui, mais vous voyez, la nature est bien faite, je vais vous dire pourquoi. Parce que si le pénis du mâle canard a cette forme-là, ce n'est pas pour rien, c'est pour s'adapter à la forme et à la longueur des voies génitales de Madame Canard. Mais attention, il y a vraiment une particularité chez les canards argentins. Les voies génitales du mâle vrillent dans un sens, tandis que ceux de la femelle vrillent dans le sens inverse. Ah oui. Autrement dit, le mâle ne peut féconder la femelle que si elle est d'accord.
Ah, ça, c'est
Et si
bien.
Elle est d'accord, elle va se décontracter. Elle va décontracter ses voies génitales pour permettre l'intromission de l'organe mâle. Sans cela, point de caneton.
Voilà. Moi, j'ai vraiment appris le mot intromission, enfin le sens de l'intromission dans
mais
la nature.
Ce qu'elle nous a raconté, la maman canard, là, il faut que ça soit le tunnel sous la manche qu'elle est à disposition pour le mec. Parce que, avec un machin pareil, comment veux-tu qu'il arrive à dérouler le tuyau, lui?
Bienvenue sur Europe 1, Radio de la Découverte. Merci, Farah Kessri.
Merci.